Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a si bien présenté le 20h qu'on n'a plus besoin de la présenter à 15h30, Christine Ockrent. Une grosse tête qui évite de mettre un bonnet blanc pour que on ne puisse pas la confondre avec un coton-tige. Ariel Dombal. Une grosse tête dont les cambrioleurs dont les cambrioleurs qui voulaient voler sa bibliothèque sont repartis bredouille. Stéphane Plaza.
C'est dégueulasse.
C'est vrai.
Rigoler du malheur des autres.
Une grosse tête qu'on n'aura pas besoin de paparazzier pour savoir qu'elle forme un couple magique avec Stéphane Plaza. Valérie Mérès. Une grosse tête qui supporte le Paris Saint-Germain pour le football et le petit Marseillais pour les courses de caisse à savon, Florian Gazan.
Bonjour.
Et une grosse tête qui va nous faire revenir au théâtre par le bout du nez, François Berléand. On est désolé pour vous, Stéphane. Non, mais tous, hein, on est solidaires avec Stéphane
bien
Plaza.
Ça, ouais. Bah,
évidemment.
Oui, c'est un traumatisme.
Et il faut le dire, cette émission est en direct entre 15h30 et 18h.
Voilà.
Donc profitez-en. C'est un piège, Stéphane. Comme ça, vous pouvez être chez vous et voir qui vient quand vous n'êtes pas là.
Parce qu'il paraît qu'ils reviennent.
Ah oui, ah oui.
Enfin, c'est ce que m'a dit Ariel Dombal pour me rassurer. T'en fais pas, ils vont revenir piquer le reste.
Mais le reste de quoi? Déjà, j'étais sûr. Dans la presse, quand j'ai vu quand vous avez piqué des vêtements de luxe, je me suis dit, mais alors pourquoi il les met jamais? D'habitude, c'est vous qui les organisez, les visites des appartements.
Ouais, ce qui m'a...
Ben là, ils ont pris une grosse commission. Hein.
Non, mais moi, en réalité, mon chat m'a sauvé la vie.
Ah oui, racontez.
Mais parce que quand je suis rentrée chez moi, d'habitude, mon chat m'attend toujours derrière la porte.
Et oui.
Et ce jour-là, j'entre, mon chat n'est pas là. Et je sens comme un espèce de souffle, une présence, comme ça. Et donc, je pars à reculons. Non, mais la porte était entre-ouverte, ce qui était déjà un peu bizarre.
C'était des mauvais signes, hein.
Oui, parce que le chat, c'est
le chat s'était barré.
C'était des mauvais signes parce que moi, la porte aussi était entre-ouverte.
Voilà. Et je suis partie, donc, à reculons. J'ai appelé la police. Et en effet...
Pourquoi vous êtes partie à reculons? Vous auriez pu vous retourner, non?
Ben non, mais ça se voit pas.
Non, mais bizarrement, c'est vrai que j'ai descendu l'escalier à reculons.
Ah oui, d'accord.
Avec les yeux fixés sur la porte. Non. Et en fait, les méchants étaient là. Hein.
Ah, les méchants étaient là.
Ah, les méchants.
Oui.
Ah,
oui.
Ils étaient là. Méchants. Ah, les méchants.
France Inter.
T'as vu leur tête ou ils avaient une cagoule?
Mais non, c'était des méchants.
Je n'ai pas vu leur tête, mais j'ai appelé la police. Après, ils sont venus avec moi. On est retourné dans l'appartement. Pistolet au poing, comme on dit. Hein.
Tu veux dire les policiers?
Oui,
les policiers.
Faut que t'arrêtes de regarder Netflix. Hein.
Voilà, et en réalité, c'était des horribles.
Enfin, vous savez que c'est M. Plaza qui a été cambriolé, pas vous, Ariel.
Oui, mais oui, mais je peux vous dire qu'on ne retrouve jamais rien.
C'est la même
Ariel. Il n'avait pas grand-chose à perdre.
Non, mais ils ont pris, même mes slips, ils ont pris.
C'est pas vrai.
Oui, même un string, ils ont pris. J'avais un petit string éléphant que je fais de temps en temps. Ah non, mais, et ben même ça, ils l'ont pris.
Attendez, vous avez un string éléphant.
Oui,
avec la trompe. Devant.
Il l'avait.
Oui, bah oui, vous mettez, vous voyez, quelques... Bon, bah non, mais...
Et les oreilles
sur
les côtés. Les oreilles sur les côtés, la trompe, et bien même ça, ils l'ont piqué, les gars.
Mais ils sont des fétichistes.
Oui, mais ça se retrouve. Peut-être que les cambrioleurs sont dans le public aujourd'hui. Enlevez vos pantalons.
Oui, allez, montrez votre culotte.
Monsieur Berléand, vous êtes impatient, j'imagine, de répondre à des citations, car
oui,
tout de même,
parce que là, quand même
le cambriolage de Monsieur Plaza, ça va un moment, voyez-vous.
Oui.
Et puis, comme dit Ariel, il y en aura d'autres.
Oui, oui.
Ah oui, elle me l'a dit tout de suite, ils vont vite revenir.
Pour Guillaume Vable, qui habite Pain-Justaret, c'est en Haute-Garonne, qui a dit « Faites l'amour, pas la guerre, ou alors faites les deux, mariez-vous ».
Francis Lalanne ?
Non.
Simone de Beauvoir ?
Ah non, non.
Pierre Desproges ?
Non, un habitué des grosses...
Jean-Yann !
Jean-Yann, évidemment, excellente réponse de Valérie Mérès. Pour Stéphane Petitjean, qui habite Paris 5e, qui a dit « Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. »
Einstein.
Ça peut être Stéphane Plaza ?
Non.
Jean-Michel Blanquer ?
Non. Un autre habitué des grosses
Pierre
têtes.
Dac.
Pas Dac.
Coluche.
Francis Blanche.
Francis Blanche.
Pierre Desproges. Bonne réponse de François Berléand. Allez, on monte encore le niveau d'un cran et ce sera pour Inès Caudron, qui habite Emerainville, en Seine-et-Marne, qui a dit « Je pense que c'est idiot, mais la nuit tombe toujours à la tombée du jour. »
Ah, c'est joli.
C'est français, ça ?
C'est français. C'est oui, parce que c'est plus difficilement traduisible, peut-être. Oui, ça marche en anglais ?
Ah, ça pourrait.
Ça pourrait. Faites-le moi en anglais, alors, Christine.
« The end of the day always falls at... » The end of the day.
No, 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 that's not right. No,
it's
not. The twilight.
The twilight.
Twilight.
Yes.
But twilight, twilight.
Bon, de toute façon,
well,
vous embarrassez pas, c'est français.
Ah, bon.
C'est un français qui a dit ça.
Donc, c'est pas Woody Allen.
Voilà. Ce n'est donc pas Woody Allen.
Et c'est, du coup, c'est un poète quand même un peu.
Un français vivant, écrivain, pas forcément poète, mais écrivain.
Écrivain Goncourt ?
Écrivain Goncourt.
Ah. Welbeck ?
Non, il a eu Goncourt en 2020.
Hervé Le Tellier.
Hervé Le Tellier, voilà. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est Hervé Le Tellier. Monsieur Plaza, on peut quand même passer à l'émission.
Oui, mais...
Pendant les pubs, il parle encore de son string.
Non mais ouais.
Son string éléphant.
Vous en rachèterez un.
Avec
écoutez.
Regret, avec regret.
On va se cotiser, on va passer un chapeau dans le public.
Ouais.
Mais c'est toujours difficile d'aller acheter ça, voyez-vous. On préfère quand on vous l'offre.
Un string éléphant.
Ah oui, ça vous a l'air un peu ridicule de dire
si
que
les j'ai... cambrioleurs nous écoutent.
Au moins qu'ils me rendent ça,
rendez-le.
Ce que je demande.
Renvoyez le slip éléphant. Voilà.
Lavez-le avant quand même. Hein.
Oui.
Vous n'avez pas l'air atteint non plus, vous deviez avoir une bonne assurance.
Non, non, je ne sais même pas si je suis bien assuré.
C'est pas vrai.
Oui, parce que c'est un appartement de comment
de
on
voilà, fonction.
De location.
C'est une location le temps que mes travaux soient terminés.
Ah.
Mais
ah.
Tu te le loues à toi-même.
Non, ben c'est pas moi le propriétaire.
À quelle adresse les travaux?
Bah, de toute façon, vous savez que c'est ces cons de la presse people qu'on fait
mon adresse. Mais
Laurent,
attendez que ce soit terminé.
Ah, mais donc, ils ont volé les choses du propriétaire.
Ouais. Bah, c'est les miennes, non, c'est quand vous louez. Quand vous louez, vous emmenez vos choses.
C'est
un appartement vide, oui.
C'était pas un meublé ?
Non, pas non. Jamais.
Il n'y a rien de meublé chez lui, même pas le cerveau.
Oh. Oh, mon chéri.
Et vous applaudissez ça. Bah, merci.
Ça risquait pas de le piquer. Hein.
C'est partagé, vous avez noté.
Oui. Oui.
Il doit y avoir des cambrioleurs dans le
public. Vous coûtez cher, hein, vous.
Allez, une première question pour Georges Clouzy qui habite Melkven, c'est dans le Finistère. Pouvez-vous me dire ce que signifient les lettres PFUE qu'on trouve dans la presse aujourd'hui ? PFUE.
Est-ce que le F c'est français ?
Non, c'est lié à l'Union européenne, donc c'est le...
Et le F veut bien dire français ou française ?
La c'est présidence, française de l'Union européenne.
Bonne réponse du duo Gazan-Okrent.
Ah !
PFUE, ça veut bien dire présidence française du Conseil de l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, le président de la République va parler au Parlement européen de Strasbourg. Et certains reprochaient même pas qu'on faisait un logo nouveau exprès pour ça. Certains reprochent au logo qui a été dessiné pour désigner cette présidence française Union européenne. Certains reprochent qu'on distingue les lettres Emmanuel Macron. Et alors, j'ai le logo,
ah
là.
Bon
alors, je vois bien le E, mais je ne vois pas le M. Vous pouvez m'aider ? Vous voyez le M, vous ?
Ah ben, de toute façon, il y a toujours des gens qui contestent.
Ce que je ne comprends pas, c'est le drapeau slip éléphant qui se trouve...
Non, mais bon, d'accord.
C'est combien de temps? On va se tourner vers quand même la journaliste, oui, de l'émission. La présidence de l'Union européenne, ça dure combien de
temps?
Ça
dure 6 mois, mais avec l'élection présidentielle, ça va être extrêmement raccourci.
Ah oui, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a 2 pays par an qui dirigent l'Europe, alors?
Absolument.
Ah, très bien. Et c'était qui avant nous, alors?
Et avant nous, je crois que c'était la Slovénie.
Ouais, on l'a pas su, hein?
Non.
Je pensais que c'était les Belges, il n'y a pas longtemps, qui dirigeaient l'Europe. Non. C'était l'année dernière, alors, les Belges. Et après nous, c'est qui ce sera après
et
nous?
Et après nous, ce sera l'Allemagne.
Ah, ah, oh, dites donc.
Ah, ben bah, toujours, hein.
Aujourd'hui, 18 janvier...
Attention.
Quelle année?
Déjà, elle a la date.
1871,
oui,
c'est la fondation de l'Allemagne. Ah, qui c'est ça ici?
Personne.
Vous êtes sûr de ça, là?
Oui, oui.
La fondation de l'Allemagne, oui, en 1871.
Oui,
oui, oui, justement.
Et dans 6 mois, ça sera l'appel du 18 juin.
Je vous ai compris.
J'aime l'esprit logique de Valérie, mais en même temps, elle n'a pas tort, voyez-vous.
Et voilà, c'est ça.
Une autre question, quittons la politique un instant pour le...
J'en sais des choses.
Qui ne servent à rien, oui.
Pour le sport et le cinéma, puisque c'est, que c'est le festival du film d'humour à l'Alpe d'Huez, un rendez-vous qu'on connaît bien et qu'on aime bien, RTL est sur place, mais l'Alpe d'Huez, pour tous ceux qui aiment évidemment le Tour de France, c'est aussi avant tout une étape du Tour, un sommet, c'est pas le sommet le plus dur, hein, d'ailleurs.
Non, mais la montée est compliquée, il y a un paquet de virages. Il y a
des virages aussi compliqués. Hein.
En général, à la montagne, ça tourne.
C'est vrai.
C'est le Mont Ventoux le plus compliqué.
Ah oui, vous savez ça, vous?
Bien sûr, je sais plein de choses.
Puisque vous êtes doué en cyclisme, monsieur Plaza.
Et l'Everest, c'est pas compliqué.
Non, mais on peut pas monter en vélo, il n'y a pas de route.
Avec le vélo, c'est toujours compliqué.
Quel est le premier cycliste à avoir gagné l'étape de l'Alpe d'Huez? On est, attention, là, en 1952.
Arum Taziev.
En copie.
Copie.
Faustocopie, bonne réponse.
À l'ère des vélos électriques, pourquoi il y a des mecs qui se font chier à monter dans des montagnes?
C'est
avec...
du sport, ça s'appelle du sport, Valérie. Mais oui, la faustocopie, de toute façon, c'était une petite question préliminaire. En revanche, vous allez peut-être me retrouver le nom, monsieur Plaza, du dernier Français à avoir gagné l'étape de l'Alpe d'Huez. Et ça, c'est plus récent, puisque c'était en 2015.
Comment Thibaut Pinot.
Non.
Thibaut, voilà. Pinot. Si. Excellente réponse de Florian Gazan. C'est Thibaut Pinot. Vous faites du vélo, vous, monsieur Berléand?
Électrique, bien sûr.
C'est vrai? À chez vous, alors?
Ah bah, à partir d'un certain âge... Mais non, j'ai un vélo électrique pour...
Mais électrique, c'est pas sortir, forcément à la maison. Sortir, hein. Électrique, c'est que ça
roule. Électrique, en principe, ça roule.
Ah, je croyais que vous aviez un vélo électrique à l'intérieur.
Non.
Ça, c'est vraiment pour les feignasses. Le vélo électrique d'appartement, c'est vraiment les grosses feignasses.
En général, ça n'existe pas.
Je vais y penser.
Là, moi, c'est moi qui suis con.
C'est pas ça, c'est que la façon dont vous avez dit vélo électrique, c'était genre... Vous minimisiez, vous voyez, alors que...
C'est ça, ça faisait pédale douce.
Alors que quand même, vous faites du vélo, alors.
Oui, voilà, mais électrique.
Électrique, d'accord, mais dehors quand même.
Dehors,
oui. Ah oui, je pensais que vous faisiez un vélo d'appartement. Non, mais au fond, le vélo d'appartement est plus difficile que le vélo électrique dehors.
Ah, bien sûr.
Oui. Vous êtes d'accord?
Voilà, absolument. Moi, mais... j'ai un rameur chez moi.
Ah, chez vous, c'est un rameur.
Mais un rameur électrique qui rame à ta place?
C'est un rameur.
Bah, donne ton adresse, demain tu ne l'auras plus.
Et voir, elle fait du sport pour rester aussi
mince.
Elle non, fait du saut à la perche, elle fait la perche.
Non, mais j'adorerais faire du saut à la perche, hein, voler comme ça au-dessus du fil, ça doit être merveilleux.
Elle est tombée sur un matelas en plus.
Non, mais je fais le plus grand des arts, qui est l'art de la promenade. Voilà, c'est ça mon sport.
Oh, mais oui, que... les maigrichonnes, elles n'ont pas besoin de faire du sport, alors elles sont molles.
Oh la vengeance,
la grotte.
Oh là là, oh c'est là là. Non, non, mais c'est vrai que une promenade par jour et on vit jusqu'à 1000 ans.
Ah, ça fait quand même des kilomètres, dites donc.
Oui.
Et vous, monsieur Plaza, alors vous aviez des appareils de sport, je dis bien vous aviez à la maison des appareils de sport.
Non, ça ils n'ont pas pris non plus.
Ça non plus, non.
Mais il n'y avait rien à cacher dans l'appartement, des gris-gris.
Des slips kangourous.
Maintenant, il n'y a plus rien, il est très épuré. Hein. J'ai fait un bon homestaging. Hein. Je ne vais pas être emmerdé.
Comment vous dites un bon
homestaging?
Oh la vache.
Ah oui.
Vous savez, je suis un petit peu anglophone.
Ouais, fait.
Voilà, donc non, j'avais pas de.
Et les voisins ont rien entendu à côté ou en dessous?
J'ai été frappé.
Ah.
Comme par hasard, c'est con. Enfin, oui, hein. Eh ben, ils dormaient tous à 21h. On n'a rien entendu.
Ah, donc, sont les voisins.
Ah oui, c'est peut-être eux.
Sont les voisins. Et
évidemment. Oui, chez les voisins.
Bah, j'ai pas osé. Je vais peut-être leur dire, tiens.
Ils dormaient à 21h,
c'est ce qu'ils
voisins.
M'ont dit, ils n'ont rien entendu, ils étaient fatigués.
Mais t'habites dans un EHPAD.
C'est quand même rare de dormir à 21h.
Les gens sont sérieux dans mon quartier, vous savez. On respecte le bruit du voisinage.
C'est dans le Marais, hein, c'est ça?
Oui, ben ça va, allez, redonnez l'adresse.
Stéphane, moi je vous conseille de ne pas revenir chez vous ce soir, hein.
À mon avis, Stéphane, c'est une invitation.
Bon, écoutez, Ariel, je vais venir dormir à la maison.
T'inquiète, déguisé.
Donc, si les voleurs me cherchent, je n'ai plus de slip, mais je serai chez Ariel.
C'est ce qu'il voulait, que vous veniez sans slip. Ah, je vais vous emmener sur une île pour la question suivante.
Ça, c'est beau.
C'est une question culturelle. L'attention de Patricia Pigache, qui habite Lunel, dans l'Hérault. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'île de Blefuscu. Mais de quelle île s'agit-il?
Comment vous la prononcez?
Pardon?
L'île de Blefuscu. Blefuscu.
Est-ce que c'est une île française?
Ah oui, oh, française. Non, c'est une île internationale. Mais les Français la connaissent comme, on va dire, de nombreux pays. De toute façon, c'est une île que vous aurez du mal à trouver sur une carte.
C'est une île de fiction, alors?
C'est une île de fiction.
Ah, c'est du docteur March?
Qu'est-ce que vous racontez, vous?
Non, c'est les filles, pas les îles.
Les îles du docteur March?
Elles étaient quatre.
Ils lui ont piqué ses dictionnaires aussi, hein.
Non, ils ont piqué quelques lettres des titres.
Oui, je suis perturbé, merde.
Il s'agit effectivement d'une île qu'on trouve dans une célèbre fiction.
Est-ce que ce n'est pas l'île du docteur Moreau?
Ah non, non, Blefuscu.
C'est du Jules Verne?
Du Jules Verne, non.
C'est français?
Ah non, ce n'est pas français. Là, effectivement, vous aurez l'occasion d'aller au théâtre ici à Paris, voir cette adaptation, et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on aura au téléphone dans un instant quelqu'un qui a créé cette adaptation que vous pourrez voir sur scène, au théâtre de l'Athénée. Mais le livre de départ dans lequel on trouve cette île n'est pas un livre français.
Gulliver.
Les voyages
de Gulliver.
Excellente réponse d'Ariel Dombal.
Bravo.
Ça, c'est bien, Ariel.
Elle en sait des choses. Hein.
Oui. C'est vrai que ce n'est pas la plus connue, évidemment. On connaît mieux l'île voisine, Lilliput.
Oui, je la connais bien, celle-là.
Il y a une guerre entre Lilliput et Blefuscu. Et d'ailleurs, Valérie Le Sor va nous le confirmer. Bonjour, Valérie Le Sor.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Le voyage de Gulliver a droit à une page superbe dans le Figaro. Aujourd'hui, les pages culture du Figaro. C'est un spectacle que vous proposez jusqu'au 28 janvier au Théâtre de l'Athénée, dans le 9e arrondissement de Paris. Ça ne doit pas être facile à adapter quand même, Jonathan Swift et les voyages de Gulliver.
Non, on ne peut pas dire que ce soit facile, mais en fait, on a mis en scène avec Christian Eck et on aime bien adapter des romans absolument impossibles à monter au théâtre. Donc, on a d'abord fait 20 milieux sous les mers, on a fait La Mouche, et puis là, on s'est attaqué aux petits Lilliputiens.
Alors comment vous faites justement? Parce que vous n'avez pas pris, j'imagine, des comédiens de petite taille. comment vous faites pour faire les Lilliputiens sur scène?
On n'en a pas trouvé des assez petits. Alors on utilise en fait le procédé de la marionnette hybride et du théâtre noir. Une marionnette hybride, c'est un personnage qui est moitié comédien, moitié marionnette. Donc il a le visage d'un humain, mais il a un tout petit corps.
Il y a une photo dans le Figaro, là, ça donne envie de venir voir, hein, je vous jure.
Un tout petit corps?
Ah oui, ils font 15
cm. En fait, on fait 50 cm.
Mais il n'y a que la tête qui passe dans un trou?
C'est ça, exactement.
Oh, ça doit être très mignon.
Ah oui, oui.
Et non, vraiment la tête qui passe dans un trou. En fait, on a un couloir de lumière, notre propre corps est effacé parce qu'on est tout en noir sur du noir. Et en fait, on ne rentre que sa tête et que son petit personnage dans la lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
On a du mal à comprendre.
Non, mais on viendra venir
le voir, alors.
Alors, on peut rappeler que ça commence par un premier voyage avec cette guerre entre Lilliput et Blefuscu, qui sont bien deux îles, vous me confirmez?
Tout à fait, c'est Blefuscu.
Blefuscu.
Allez,
voilà. Et alors, vous avez surtout les gros boutistes et les petits boutistes, c'est bien ça?
C'est dingue parce que ce roman qui a été écrit en 1726 est extrêmement moderne puisque c'est sur la tolérance, la bêtise humaine, la guerre. Donc, c'est intemporel, malheureusement. Donc, en fait, ils se font la guerre parce qu'il y en a qui ouvrent les œufs à la coque par le petit bout et les autres par le gros bout. Et ce sont des guerres sanglantes.
C'est vraiment sur la bêtise de la guerre, en fait. Il faut quand même le dire. Et effectivement, les gros boutistes ouvrent les œufs à la coque, j'imagine, par le gros bout, et les petits boutistes par le petit bout.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie?
C'est une vraie question. Mais oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, en vrai?
Oui.
Quoi, vous voulez dire pour apaiser la guerre?
Qu'on n'a jamais réussi, madame. Aidez-nous.
Moi, je l'ouvre par le petit bout. Je pense que je suis petit boutiste. Après, j'ai jamais rencontré personne qui était gros boutiste.
Voilà, de là à faire la guerre aux gros boutistes, faites comme vous voulez. En tout cas, c'est un spectacle que le Figaro conseille, et nous aussi, de confiance. C'est au théâtre de l'Athénée. Allez voir, c'est pour les enfants et les adultes, bien sûr.
Oui, il y a vraiment deux niveaux de lecture et c'est vraiment pour tous.
Valérie Le Sœur, Christian Heck ont adapté Le Voyage de Gulliver au théâtre de l'Athénée. On vous le conseille. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec François Berléand, Christine Ockrent, Ariel Dombal, Florian Gazan, Valérie Mérès et Stéphane Plaza. La question littéraire du jour à l'attention de Monsieur Néron qui habite Commères dans la Mayenne. Alors je vous préviens, elle est à la fois facile et difficile cette question.
Mais un jeu de mots?
Non, c'est pas un jeu de mots, mais c'est quelqu'un dont il s'agit de retrouver le nom, qui était un écrivain, un poète, auteur dramatique. Considéré d'ailleurs à son époque comme un excellent chroniqueur, à l'esprit verveux et paradoxal, disait-on. Il a écrit sous différents pseudonymes, L'Homme masqué, Ariel, Caliban. Il a fait partie de l'Académie Goncourt.
Zorro ?
Non, Zorro.
Je pensais que tu allais dire Batman, tu vois.
Oh, Zorro.
Bah, L'Homme masqué, pour moi, c'est lui. Hein.
Ah non.
Sous son Z de son épée.
Je suis effondré par Plaza.
Plaza, c'est zéro.
Bon, bah oui, je vois qu'ils sont effondrés.
Il s'agit de retrouver un écrivain, un auteur dramatique. Ne me dites pas zéro. Zorro.
Zorro. Bah, alors, si vous préférez Antonio Banderas.
Non.
Don Diego de la Vega.
Écrivain, poète, dramaturge. Qui d'ailleurs a épousé la fille de Théophile Gautier, devenue...
Oh, dans le 16e arrondissement, Théophile Gautier, 13 villes du maître.
Il est devenu le gendre de Théophile Gautier. Bah, d'ailleurs, croyez pas si bien dire, cet écrivain a une avenue dans le 16e arrondissement de Paris.
Avenue Théophile Gautier.
Et je vais même vous dire mieux, voilà pourquoi ça devient facile. Parce que jusque-là, je reconnais que c'est assez difficile. C'est pas l'écrivain, le poète ou l'auteur dramatique le plus connu au monde.
Oui.
Mais il se trouve que quand on rentre ici à RTL, à Neuilly, on voit son nom tous les jours.
De Gaulle, général de Gaulle.
Bon,
ah non.
Nicolas Taverneau?
Non, ça c'est l'avenue du général de Gaulle. Non, mais c'est là l'entrée de RTL, c'est entre l'avenue du général de Gaulle et quoi donc?
L'avenue du Roule.
Il y a une petite impasse.
Eh oui, cette petite impasse, comment elle s'appelle?
Villarette.
Quoi?
Villarette.
Non. Vous voyez, quand on vient ici à peu près deux ou trois fois par semaine.
Je reviens.
Et qu'on n'a jamais la curiosité de regarder ce qu'il y a sur les panneaux, on se fait piéger par l'animateur.
Oui.
Auguste quelque chose.
Ah non, Auguste non. Quelque chose.
Gérard de Nerval. Mérimée.
Non, vous voyez que c'est à la fois facile et difficile.
Ouais, il est pas
vous passez devant à chaque fois, ici.
Mais moi, je passe jamais devant.
Et le public, d'ailleurs, qui patiente chaque jour, a sûrement vu le panneau. Un écrivain, auteur dramatique. Je peux vous donner quelques œuvres, si ça vous aide.
Non,
Les cuirassés de Reichshoffen, qui a été
Potemkin.
Non, une pièce écrite en vers. Vous connaissez ça, monsieur Berléand?
La charge de Reichshoffen.
Il a écrit aussi Plus que Reine, un drame en 5 actes, qui a même été joué à New York. Vous voyez quand même, il a eu un vrai succès international. Il a été académique. l'académicien Goncourt. Il s'est marié avec la fille de Théophile Gautier. Il a une avenue dans le 16e et ce qu'on appelle une impasse, une villa. À Neuilly, on appelle ça une villa.
Ah, plus, Paul Doumer.
Non, Paul Doumer, non. Et qui donne là, juste
c'est
sur
pas Villaret.
L'entrée de RTL.
Est-ce qu'il a un homonyme célèbre à tout hasard?
Non, il a un prénom, un nom, voilà ce que je peux
vous
dire.
Est-ce qu'il a une particule?
Et il est mort ici à Neuilly-sur-Seine en 1923.
C'est pas Pierre Dumas?
Ah, Pierre Dumas, non, non.
Tassini?
Ah, non plus.
Paul Valéry?
Paul Valéry non plus, non.
Moi, je connaissais François Valéry.
Ah oui.
Et moi, elle danse, Géraldi. Elle danse, Marie.
Pardon.
Géraldi.
Paul Géraldi, c'est bien, Christine, mais c'est pas ça du tout.
On a le droit de mettre Waze?
C'est un Pierre?
J'espère que quelqu'un dans le public aura retenu le nom de la laquelle vous patientez
Est-ce
tous les jours pour assister à cette émission.
Supervielle.
Comment Madame vous dites?
Supervielle.
Supervielle, non. Ah, c'est bien triste.
Anatole France.
Je vous avais dit que c'était à la fois facile et difficile.
Oui,
c'est vrai.
C'est surtout difficile.
Difficile parce que vous ne connaissez pas l'écrivain, mais facile parce que le panneau est à l'entrée de
RTL. Je passe trop vite en scooter. J'ai pas le temps de le lire.
C'est une honte de ne pas avoir la curiosité, vous voyez. Bon, certes, je reconnais que je l'ai eu qu'au bout de 8 ans moi-même. Parce que c'est ce matin que j'ai eu cette idée.
Vous n'arrivez pas du bon côté.
Il y a des mains qui se lèvent déjà dans le public. Dans 30 secondes, Monsieur Plaza, vous plongerez parmi nos spectateurs.
Je vais vous dire que je vais regarder.
Ça commence
j'ai tout regardé. Hein.
Ça commence par un B, non?
Ça commence pas par... Ah, vous parlez du nom de famille? Oui,
oui
le nom de famille
par...
commence par
Je passe tellement vite que je vois les deux premières lettres et après je disparais.
Mais il me faut le prénom et le nom, hein, quand même, évidemment.
J'ai le B, donc ça fera que
Bassano,
90 euros.
Bassano.
En tout cas,
Bertrand.
C'est déjà 300 euros.
Bertot.
300 euros pour Monsieur Didier Néron qui habite Commer dans la Mayenne. Monsieur Plaza, prenez votre micro et allez vers les mains qui se lèvent dans le public.
Je vais où?
Et qui attendent chaque jour dans cette villa, cette allée, cette impasse.
Il y a une dame blanche et une dame ici.
Levez la main, c'était madame.
Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom?
Daniel.
Vous m'avez piqué mes baskets?
Non.
Alors, votre réponse?
Émile Bergerat.
Émile Bergerat, excellente réponse,
bravo,
madame.
Et il a une avenue,
Il a une avenue dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, une petite allée. C'est vrai que l'entrée de RTL, c'est à la fois avenue Charles de Gaulle à Neuilly, mais aussi juste pile à l'angle de la villa Émile Bergerat. Vous passez tous les jours devant ce nom qui vient de coûter 400 euros. Bon, ça coûte un peu plus cher la location ici, mais 400 euros à RTL. Je vais tenter une autre question plus simple, hein, parce que je vois bien que pour l'instant, quand même...
Ah bah là, Bergerat...
Bergerat. Vous voulez une question plus contemporaine,
oui,
monsieur Berléand?
Ah, voilà. Une avenue plus connue, quoi.
Et quelqu'un...
Les Champs-Élysées.
Il s'agit donc, et je sais que Valérie Mérès est aux aguets, car elle a entendu parler d'un Oscar et d'une actrice, et là, normalement, hein, ça devrait... Ah. Évidemment, être une question pour Valérie, qui connaît tout Hollywood par cœur.
Ah, c'est américain, alors, hein?
Mais attention, oui. Il s'agit de l'Oscar du meilleur second rôle féminin.
Oui.
Qu'elle a emporté alors qu'elle n'avait que 10 ans.
Oh, c'est jeune!
En 1974. Cette jeune femme, dont il s'agit de retrouver le nom, fut aussi...
Whoopi Goldberg?
Non, comment vous dites?
Whoopi Goldberg.
Whoopi Goldberg? Non mais j'ai un esprit qui est perturbé. Non mais je vous jure que j'ai plus ma tête.
C'est le seul mec qui parle en anagramme en fait.
Non, Whippy, c'est pas Whippy.
Jodie Foster.
C'est Jodie Foster.
Ce n'est pas Jodie Foster. Elle a eu
Judy Garland.
Ce n'est pas Judy Garland.
En 74.
En 74. Hein, et d'ailleurs, on peut vous dire même qu'elle a été la petite amie de Michael Jackson.
Diana Ross.
Non. Et qu'elle a été mariée avec le joueur de tennis John McEnroe.
Tatou Monil.
Avec qui ils ont eu 3 enfants. Pardon.
Tatou Monil.
Excellente réponse de Florian Gazan.
Pour quel film?
Alors, pourquoi j'ai retrouvé ce nom
Elle jouait avec son père.
Non, parce qu'elle a obtenu effectivement cet Oscar pour un film qui s'appelait La Barbe à Papa, un film réalisé par Peter Bogdanovich qui vient de mourir.
Voilà pourquoi
on a reparlé de Tatou Monil.
D'accord. Rien à voir avec les Bogdanov.
Vous voulez que je vous dise, Plaza, parfois je ne sais même pas quoi vous répondre. Ce qui nous rend finalement à égalité. Une question pour Cyril Dombois, qui habite hier dans l'Essonne. Et on va s'intéresser à un inventeur écossais qui s'appelait Alexander Cumming. Et en 1760...
Ah bah, vous l'avez dit.
Comment ça, je l'ai dit?
Non, pas moi.
Mais on ne sait pas ce qu'il a inventé.
On ne sait pas ce qu'il a inventé.
Et la question ne porte pas sur son nom, monsieur Berléand.
Ah, dommage, parce que...
C'est ce que tu l'avais dit.
Elle porte sur ce qu'il a inventé en 1775.
Le cumin.
Un brevet, non, monsieur Cumming n'a pas inventé le cumin. Un Écossais, en 1775, qui a déposé un brevet. Il était horloger, si ça peut vous aider. Mais attention, son invention, même s'il y a un rapport avec l'horlogerie, n'est pas tout à fait lié à l'horlogerie. Mais le brevet qu'il a déposé en 1775 reste valable parce que son mécanisme est encore utilisé aujourd'hui.
Le quartz,
non. Donc
le Greenwich Mean Time.
Qu'est-ce que vous dites?
Le méridien de Greenwich.
Le GMT.
Ah, le méridien de Greenwich, non.
Donc il y a un mécanisme à l'intérieur, c'est petit?
Il y en a de différentes tailles, mais effectivement, lui, il a amélioré un mécanisme déjà existant dont il a déposé le brevet.
Le cerveau de Plaza?
Non.
C'est pour s'en servir au péage?
Comment ça?
Mais enfin.
En 1775.
Ouais, il a inventé le télépéage. Il s'est dit, un jour il y aura les autoroutes, je vais inventer le télépéage.
C'est-à-dire qu'il avait inventé un mécanisme qui après a servi au péage?
Ah oui, bien sûr.
Le thermomètre?
Thermomètre, non.
C'est domestique, Laurent?
Ah, domestique dans le sens à la maison, vous voulez dire? Oui, oui, mais ça peut être aussi sur le lieu de travail. C'est un peu partout. C'est un endroit, on va dire que. Non, mais je ne vais pas vous aider trop.
Ah, c'est quand on arrive à l'usine, on pointe.
Un peu comme nous à RTL et qu'on ne voit pas l'avenue Émile Bergerat.
Exactement.
Est-ce que ce ne serait pas l'inventeur de l'horloge parlante?
Ah, pas du tout.
Est-ce que c'est dans une pièce bien précise qu'on l'utilise?
Oui.
C'est dans les toilettes?
Dans les toilettes.
La chasse
c'est
d'eau.
La lunette.
La chasse d'eau avec un siphon en S. Bonne réponse de Florian Gazan. C'était la chasse d'eau, effectivement.
Oui, la Cummings, quoi.
Ah, on sent.
Avec la petite chaîne, la Cummings.
La Cummings, comme vous avec dites, monsieur. Vous avez la Cummings, vous, à la maison
Bien sûr. Ah, on est deux, même.
Non, parce que c'est un mécanisme qui permet de retenir l'eau en permanence dans le tuyau d'évacuation, empêchant ainsi les gaz d'égout de pénétrer dans le bâtiment. C'est-à-dire que ça va dans un sens en descendant, mais ça remonte pas, vous voyez. C'était tout le génie de cette mécanique de chasse d'eau. C'est important, la chasse d'eau, quand vous faites visiter un appartement, monsieur.
Oui, enfin, moi, ils nous ont pris aussi mes toilettes, mais...
Ils ont pris ton sanibroyeur ?
Rien ne vaut, la vieille cuvette. J'ai jamais compris pourquoi on mettait une brique là-dedans, d'ailleurs, parfois.
Et celle qui est au-dessus de la tête, là-haut.
Oui, oui, oui.
C'est pour qu'elle ait de l'argent.
Mais pas du tout.
Ah, c'est là où tu l'avais mis.
Pas cette indication.
C'est normal, il s'est dit, c'est du liquide, je vais le mettre là.
Dans un petit sac, vous voyez, un petit...
Hermétique.
Non, oui, on mettait bien une brique avant dans la chasse d'eau.
Non.
Pour économiser l'eau, c'est ça? Pour économiser l'eau.
Ah oui, mais là, attendez, c'était en 1820.
Non, mes parents faisaient ça, écoute. Mettez une brique, vous avez mis une brique en liquide.
Oui, mettez-moi dans un petit. Oui.
Ça me rappelle le premier film de Patrice Lecomte avec Coluche.
Les WC étaient
fermés de l'intérieur. Vous vous souvenez de ça? Génial ce film. Parce qu'on apprenait, on comprenait à la fin seulement comment le type avait été retrouvé mort à l'intérieur de ces WC parce qu'il avait.
Ça a l'air bien.
Il
rigole tout seul du film.
Il avait reçu la brique.
Oui, parce qu'il avait un réflexe, parce qu'il était contrôleur sur les plateformes de bus.
Ah oui.
Et qu'à l'époque, les contrôleurs sur les plateformes de bus, ils tiraient une chaîne. Vous voyez,
et donc il a pris la brique sur la gueule.
Et donc une fois dans les chiottes, il a fait la même chose et plouf. Ouais, c'était ça, les WC étaient fermés de l'intérieur.
Ah oui.
Ah, ça devait être
génial de l'avoir spoilé. Merci Laurent.
Plus personne ne regarde.
C'est un vieux film.
Ah oui, franchement, là, c'est un vieux. Mais moi, j'avais. Qui n'avait pas marché, mais j'avais.
C'est Jean Rochefort, non ?
Beaucoup aimé ce film.
Bah, souvent, il y a des films qui ne marchent pas, qui sont des chefs-d'œuvre. Hein.
Avec Coluche.
Par exemple. Je peux vous dire, j'ai connu ça. Ça, on ne pourra pas me le voler.
Vous parlez de J'ai perdu Albert ?
Oui, par exemple.
Vous voyez, vous aviez déjà perdu quelque chose.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est signé Vincent Doumézel. Je ne vous donne pas le thème de ce livre publié aux éditions Équateur, parce que le thème, c'est justement la réponse à ma question à destination de M. Joanne Lacour, qui habite Bonsenheim, dans le au Rhin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au Japon, le 6 février, ce sera pour bientôt donc, est le jour national de ce thème-là. Thème d'ailleurs très prisé au pays du soleil levant. Et je peux vous dire que le nori, le kombu, le wakame, l'iziki et le mozuku en sont. De quoi s'agit-il ?
Le wakame, c'est
un art martial ?
Un art martial, non.
Le wakame, c'est une algue ?
Alors ?
La journée mondiale des algues ?
Les algues ! Bon. Excellente réponse de Florian Gazan.
Ah oui !
Vous connaissez même le nom des algues, vous, alors ?
Oui, 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 bah oui, le wakame, on trouve souvent.
Oui. Ah oui, parce que ça se mange.
Ah oui, ça se mange. Pas seulement. Oui. Les algues, on peut en faire beaucoup de choses. C'est ce que va nous expliquer Vincent Doumézel au téléphone. Oui. Bonjour, monsieur Doumézel.
Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Révolution des algues aux éditions Équateur. Ce serait chez Plomb, ce serait le dictionnaire amoureux des algues, parce que manifestement, vous aimez les algues.
Oui, je les aime, mais surtout j'y vois un formidable espoir pour notre civilisation, et je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup, beaucoup besoin d'espoir.
C'est-à-dire qu'on peut faire des tas de choses. On peut, dites-vous, nourrir les hommes avec les algues. On vient d'en donner l'exemple avec ces 5 algues qui sont très prisées au Japon, hein, le nori, le kombu, le wakame, l'iziki, qui est le mozuku, je ne sais pas si je prononce très bien, mais c'est ça ?
Très bien, c'est ça.
Alors, elles, ce sont des algues qu'on peut consommer. J'imagine que toutes les algues ne se consomment pas.
Alors, aucune algue n'est toxique, en fait. Contrairement aux plantes terrestres, toutes les algues peuvent se consommer.
Ah oui ?
Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elles ont toutes des bienfaits assez exceptionnels pour la santé. Elles sont très riches en protéines, en zinc. C'est le seul végétal qui va avoir de la vitamine B12, par exemple, qui est très important pour notre cerveau. Elles ont des caractéristiques anticancéreuses, anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes, antifongiques, analgésiques, et elles font beaucoup de bien à notre microbiote.
Alors l'iode, parlons-en justement, l'iode marin, ça c'est au milieu du livre, vous expliquez que c'est comme ça qu'on a réussi à guérir, enfin je ne sais pas si guérir est le mot, mais à résoudre le problème du crétin des Alpes.
Exactement, oui, tout à fait. C'était un manque d'iode qui générait le problème des problématiques de thyroïde. Hein,
puisque vous êtes dans quel département, Plaza ?
Le crétin des algues ?
Ah, j'ai bouffé de l'algue ce soir, hein, je veux dire.
Mais expliquez-nous, alors effectivement, on est en 1850, au 19e siècle, et on parle du fameux crétin des Alpes. On rassure tous ceux qui sont dans les Alpes, c'est fini hein, cette affaire-là. Mais à l'époque, il y a eu une contagion, et donc on a résolu le problème avec l'iode marin.
Tout à fait. En fait, le crétinisme, au sens médical du terme, c'est lié à un déficit d'iode, en fait, et dans des terres, dans les Alpes, où les sols sont rincés, où il n'y a pas du tout de présence d'alimentation venant des océans, on a un déficit d'iode extrêmement fort qui va créer le crétinisme. Mais le déficit d'iode, aujourd'hui, il est encore avéré dans une bonne partie de la population, 50% de la population française, je crois, et il va donner des résultats qui vont être une fatigue, une prise de poids, des problèmes de sommeil, etc.
Ah, des choses de thyroïde, non, monsieur Dumazel ?
Voilà, c'est des problématiques de thyroïde, exactement.
Ça sent, d'ailleurs, les algues ?
Ah oui, parfois, ça sent très mauvais.
Ça sent fort, le varech.
Bah, mais moi, depuis que je suis à La Rochelle, je suis moins crétine.
C'est normal, t'as des algues sur la tête.
Alors, elles nourrissent les hommes, les algues. Elles peuvent se substituer au plastique, dites-vous.
Tout à fait, voilà. Nourrir les hommes, c'est qu'une chose. Elles vont nourrir les animaux, elles vont se substituer aux pesticides pour créer des biostimulants pour les plantes. Elles vont substituer au plastique, en effet. Il y a des extraits d'algues qui vont être extrêmement efficaces, des polymères qui vont être extrêmement efficaces pour remplacer le plastique et créer un plastique qui va être complètement biodégradable.
Il y a algues et algues.
Ah, oh, mais bien sûr.
Quelquefois, il y a des invasions d'algues et tout le monde dit
que c'est très mauvaise. En Martinique, par exemple, oui. Ça bouffe tout.
Les algues, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un ensemble extrêmement vaste d'organismes très complexes qui ont 2 milliards d'années d'existence. Il faut savoir qu'il y a 500 millions d'années, les algues vertes ont migré sur Terre et ont donné lieu à toute la végétation que vous avez sur la Terre. Ah bah, elle venait de l'océan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une algue verte, elle est beaucoup plus proche d'un fraisier génétiquement ou d'un chêne que d'une algue rouge. La différence entre une algue rouge et une algue verte, elle est plus grande que la différence entre un champignon et un éléphant. C'est important parce que cette diversité de solutions, elle apporte une...
Pas, ne prononcez pas le mot éléphant aujourd'hui. Ouais. Plaza va pleurer. Mais en tout cas, c'est fou ce que vous connaissez sur les algues. Ressources encore trop inexploitée, dites-vous, au fond.
Bah oui, tout à fait. C'est la plus grande ressource encore non utilisée sur Terre, en fait. Une algue, elle n'a pas besoin de soleil. Enfin, elle a besoin de soleil, elle n'a pas besoin de pesticides, on n'a pas besoin de la nourrir. Et on n'a pas besoin de l'arroser, forcément. Enfin, elle n'a pas besoin d'eau douce, en tout cas.
Ça se mange, certes, mais est-ce que c'est très bon? Parce que moi, je ne sais pas.
Le quand... wakame, c'est bon.
Ah ouais,
le wakame, c'est très bon.
Quand j'en vois, je ne suis pas tenté, moi.
Les salades d'algues japonaises sont super bonnes.
C'est vrai?
Oui, oui, ah, moi, je trouve ça vraiment affreux, bon. Toujours un peu gluant.
Qu'est-ce qu'on peut faire des mauvaises algues?
Il y a pas de mauvaises algues.
Les sargasses en Martinique, c'est mauvais.
Il y a des mauvaises algues qui vont... Je réponds. Alors, à la Martinique, le problème des algues vertes en Bretagne et des algues rouges dans les Caraïbes, ce sont des symptômes d'un problème. Le problème, c'est la pollution des sols. L'océan, il va réagir avec son système immunitaire et donc il va produire beaucoup d'algues pour absorber cet excès de nutriments. Donc on saurait comment les valoriser. Les algues rouges de Martinique sont extrêmement riches en protéines. Les algues vertes de Bretagne sont extrêmement riches en vitamine C. Mais on rentre dans un processus de valorisation d'une pollution. Donc le problème, c'est de résoudre le problème à la source. Donc résoudre le problème de la pollution des sols. Les algues sont un symptôme, elles ne sont pas un problème.
D'accord. Oui. Et vous, quel est votre métier?
Oui. Alguiste.
Je travaille à l'ONU, moi, pour développer cette solution, pour travailler avec l'ensemble des gouvernements et du secteur privé, d'ailleurs, pour mettre en place cette révolution des algues. En fait,
la c'est génial c'est... Et les polymères aussi.
Il est conseiller pour les océans au Pacte mondial des Nations Unies, directeur agroalimentaire à la Fondation Lloyd's Register. La révolution des algues, c'est illustré d'ailleurs, vous travaillez en famille, monsieur Doumézel, puisque je vois que c'est le même nom, Neige Doumézel.
C'est ma fille.
C'est votre fille. Ah ben voilà, vous avez appris à votre fille à dessiner les algues, puisque c'est elle qui illustre votre livre, La révolution des algues, publié aux éditions Équateur, c'était le livre du jour. Une question d'histoire de France pour Jean Lopez qui habite Le Mets-sur-Èvre dans le Maine-et-Loire. Qui a prononcé cette phrase terrible? Tuez-les, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas pour me le reprocher.
D'Artagnan?
Non.
C'est un roi de France?
Ah, c'est un roi de France, oui.
Louis XIV?
Alors, il faut évidemment trouver en quelles circonstances et de qui il s'agit.
Alors, est-ce que
Henri IV?
Henri IV, non.
C'est les protestants, la Saint-Barthélemy?
C'est effectivement la veille du massacre de la veille du massacre de la Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Le roi d'Agobert?
C'est parce que vous avez retrouvé vos pantalons à l'envers.
Ah, il ne l'a pas retrouvé, justement.
Non, le roi d'Agobert, non, non, non. Non, un vrai roi de France, effectivement, qui a dit « Tuez-les, mais tuez-les tous », il parlait des protestants, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher.
Ah oui,
Henri.
C'est Henri. Henri ou un Louis?
Ah, c'est ni à Louis, ni à Henri.
Clovis.
Un François?
Clovis, non, alors écoutez, non. Ariel.
Clovis.
Non, mais là, je savais que je disais une bêtise.
C'est bien de le savoir, mais parce que moi, je ne sais pas toujours.
Sur un malentendu.
Charlemagne.
Charles X.
Mais non, mais non.
Charles XI.
Ah, mais Charles V.
Charles IX.
Charles Quint.
Charles III.
Charles Quint.
Charles IX. Eh ben, dites donc, on a eu du mal à y arriver. Charles IX. Bonne réponse
collective.
De Florent.
On a tous dit
des chiffres. De François Berléand.
Oui, oui, oui.
Mais c'est François qui a dit Charles et après on a compté. Bon, hein.
Oui, oui. C'est collectif. On est l'équipe.
Mais on est l'équipe qui gagne.
Charles IX, effectivement, c'est sous son règne que le royaume était déchiré par les guerres de religion. Fils de Henri II et de Catherine de Médicis. C'est bien Charles IX qui a prononcé cette phrase terrible. Je vous emmène en Suisse maintenant, si vous le voulez bien. Oui, oui, oui. Il s'agit de retrouver le nom de famille.
Guillaume Tell.
Non, de Louis Ulysse. Je vous donne son prénom. Et en 1860, Louis Ulysse a fondé une célèbre entreprise à Genève qui porte encore son nom aujourd'hui.
Est-ce que ce serait par hasard la Croix-Rouge?
Ah, la Croix-Rouge.
Matadon?
Non.
C'est
une marque alors.
Rolex?
Ce sont des montres?
Des montres, non, mais...
Du chocolat.
Parce que moi,
chocolat.
J'en ai plus.
Du chocolat, on voit tout de suite, hein, la Suisse. Les montres, le chocolat.
Et
les
banques.
Une banque.
Une banque, allez. Et le Gruyère, allons-y pour le Gruyère.
Est-ce que c'est une marque d'évasion fiscale?
Christine?
Une cloche.
Pourquoi vous me regardez en disant la cloche? J'ai mal le prendre à force, hein.
Alors, on n'est pas loin de tout ça, évidemment, quand on m'a dit les montres, mais pas...
C'est de l'horlogerie, alors.
Exactement.
C'est Louis Pionx.
De l'horlogerie, mais pas seulement de l'horlogerie.
Du bijou.
De la joaillerie, bien sûr.
Oui. Philippe Patek.
Ah, une montre bijou avec
Chopard.
Diamant.
Pardon,
plus
Chopard.
Chopard.
Ah.
On voit qu'il y en a.
On voit le connaisseur. Bonne réponse de François Berléand. Une autre question littéraire, cette fois.
Ah, merci.
Mais attention, les femmes écrivains à cette époque étaient rares. On parle du 18e. Et c'est quelqu'un qui est né à Rouen en 1711, qui est mort à Avallon en 1776 et qui s'appelait Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont.
Madame de Lafayette ?
Non, 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 je ne vous demande pas son nom.
Vous nous demandez quoi ?
Je viens de vous le donner, son nom, vous voyez.
Oui, mais
vous
nous demandez quoi ? Jeanne-Marie Le Prince.
Elle est l'arrière-grand-mère de Prosper Mérimée, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont.
Oui, mais là, on a répondu à toutes les questions. Oui. Là,
non, parce que je ne l'ai pas encore posé. Elle a écrit un conte que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Lequel ?
Ah, je sais, La Chatte Blanche.
Quoi ?
La Chatte Blanche.
C'est quoi, La Chatte Blanche ? Connaît,
c'est un conte.
C'est un conte qu'on connaît dans les EHPAD.
Non, elle a écrit des contes pour enfants et des contes de fées.
Oui.
Et parmi ceux-là, il y a La Chatte Blanche.
Oui, La Chatte Blanche. Oui.
Mais c'est quoi l'histoire de La Chatte Blanche ?
Ben, c'est une chatte petite blanche.
Chatte. C'est une petite chatte qui miaule plus beaucoup. Hein.
Qui épouse un prince, etc. Enfin, moi, j'ai lu ça, les contes de Madame de Beaumont.
Ah oui. Eh ben non, elle n'a pas écrit La Chatte Blanche.
Est-ce qu'elle n'a pas écrit le conte
La
de
Chatte
Spirou.
Noire.
Ça m'étonne, hein.
Ah ben, ça vous étonne peut-être.
La petite fille des allumettes.
Non, c'est Anderson, ça, voyez-vous.
Oui,
mais
là, oui.
Et c'est un conte qu'on connaît bien.
Ah oui, très bien.
Adapté au cinéma.
Blanche-Neige et les Sept Mains.
Non, pas Blanche-Neige.
Cendrillon. Le vilain petit canard.
Non, le vilain petit canard, Cendrillon, non.
C'est un conte avec des animaux ou des humains?
La petite sirène.
Un peu les deux. La petite sirène.
Non, c'est Anderson.
C'est Bambi.
C'est pas Bambi.
Non, c'est pas le petit poussé.
Ça a été adapté par Walt Disney.
Oui, ça a été adapté.
Roméo et Juliette.
Oh, c'est Shakespeare, ça. Enfin, voyons.
Boucle d'or. Boucle d'or et ses trois petits oursons.
Oh, la Belle et le Clochard.
Tom Pouce,
non.
Ça a été adapté par Disney.
Au cinéma.
La Belle au Bois Dormant.
En dessin animé.
L'Inspecteur Gadget.
Par Disney, ouais.
L'Inspecteur Gadget au 18e siècle.
Et là qui, voilà. Inspecteur Gadget.
La Belle et la Bête.
Oui, la Belle c'est et ça. La Bête. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est La Belle et la Bête.
C'est bien avec Emma Watson.
Oh, mais je le savais, savais.
Comment ça, vous le saviez, vous?
Mais
le saviez.
je le savais.
Alors pourquoi au lieu de dire La Chatte Blanche qui a fait rire tout le monde.
Non, mais il y a aussi La Chatte Blanche. Mais la Belle et la Bête, reprise par Jean Cocteau.
Évidemment.
C'était...
Ah oui. Mais au départ, La Belle et la Bête, c'est signé Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. On connaît plus son œuvre que son nom à elle. Excellente réponse de Valérie Mérès.
Bravo Valérie.
Bravo Valérie.
On fait un beau couple.
Ah, une question culturelle et d'actualité aussi, puisqu'on le sait, on célèbre Molière en cette année 2022. On célébrera d'ailleurs aussi l'année prochaine, puisque c'est l'anniversaire de la naissance cette année. Ce sera l'anniversaire de la mort l'année prochaine. Donc, voyez-vous.
Il n'est pas mort à un an.
Attendez, c'est l'année de la naissance de la naissance et de l'année prochaine de sa mort.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliciter tout ça ?
400e anniversaire pour la naissance. Alors, je n'ai pas fait les comptes pour la mort, mais c'était effectivement.
401.
Mais non.
Là, c'est pas clair là.
C'était un mort-né. En un an, il a écrit tout ça, ce gars.
J'allais chercher la date de la
mort. Excusez-moi, mais c'est pas clair.
C'était Molière.
C'est Molière.
Non, là, Laurent, c'est pas clair.
Mais si, c'est très très
non,
clair.
Non, ça n'est pas clair.
Ce sera le 350e de sa mort, un truc.
Alors, voilà. Il est né en 1622.
Oui, 1622, un jeudi.
Bon, alors, vous comprenez bien que ça fait donc bien 400 ans qu'on célèbre cette année. Il est mort en 1673. Comme on sera en 2023 l'année prochaine.
Ça fera 50 ans.
Voilà.
Près de l'église Saint-Eustache.
Vous voyez que vous pouvez me croire quand je vous dis
quelque
chose.
C'était pas clair. Là, on a les infos. Il est mort à 50 ans.
Si, c'était clair. Oui, on a fait semblant de faire la gourdasse. Hein.
Ce qu'on disait à l'époque, s'il y a 50 ans,
t'as pas écrit. Et grâce à sa femme, il a pu être enterré.
Oui, alors écoutez, ça n'est pas la question.
Ah bon. Mais attendez,
c'est important de le
dire. Il n'aurait pas écrit La Chatte Blanche.
À l'époque, on n'enterrait pas les acteurs.
On n'enterrait pas.
Même si justement, il s'agit de sa mort.
Ah.
Morgane Orva, qui habite Caluire-et-Cuire, espère un chèque RTL. Et je vais vous demander qui a écrit cette épitaphe pour Molière. Sous ce tombeau gisent Plaute et Terence, et cependant le seul Molière y gît. Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit dont le bel art réjouissait la France. Ils sont partis et j'ai peu d'espérance de les revoir malgré tous nos efforts. Pour un long temps, selon toute apparence, Terence et Plaute et Molière sont morts.
Corneille,
non.
Racine.
C'est
Racine.
Forcément quelqu'un qui est mort après lui.
Exactement.
Ah, oh, bravo.
Ce qu'on ignore d'ailleurs parfois.
Et oui, c'est pour ça que je le précise.
Parce que pour tout vous dire, personnellement,
vous pensiez qu'il était mort avant.
J'étais persuadé qu'il était mort avant.
Ronsard. Vous voyez que, mon intelligence va est très vite.
Alors attends, Marc Lévy.
Est-ce que ça peut être Boileau,
non.
La Fontaine.
Et c'est La Fontaine. Bonne réponse. Eh oui. Moi, j'étais persuadé que La Fontaine était mort avant Molière.
Eh bien non.
La Fontaine a survécu à Molière et c'est à lui qu'on doit cette épitaphe sur la mort de Molière. Une autre question concernant Molière, et ce sera pour Brice Green qui habite Danemarie dans les Yvelines, puisque vous le savez, Monsieur Plaza, on célèbre
la naissance de Molière.
Parfait.
Les 400 ans.
Et l'année prochaine, on célèbre...
La mort des 50 ans de Molière.
Non, pas la mort des 50 ans.
La mort à 50 ans.
Enfin, la 50e année de sa mort.
Non, mais il est...
La 50e année de sa mort.
Bon, en tout cas, il est mort à 50 ans, ce Molière.
Non, il est mort à Saint-Quentin.
En tout cas, Molière s'est inspiré de Guy Patin.
Guy Patin,
oui. Guy Patin, c'est un contemporain de Molière. Il est né en 1601, il est mort en 1672. Et ce Guy Patin, on le retrouve dans l'œuvre de Molière, mais sous un autre nom.
Le Tartuffe.
Tartuffe.
Georges Dandin.
Le bourgeois gentilhomme.
Non.
Le misanthrope.
Non.
Mais attendez, il n'a pas fini de poser la question.
Si, si.
Il l'a fini. Non, toi, t'as pas fini. Toi. Non, toi, t'as pas fini de la comprendre.
Harpagon. Harpagon, non.
Clément.
Alors, c'est pas tout à fait un rôle-titre, pour tout vous dire.
Ah, Sganarelle.
Sganarelle, non.
Alceste.
Cléante.
Alceste, non.
Valère.
Cléante.
Non. Alors évidemment, si vous connaissiez le métier de Guy Patin, ça pourrait vous aider.
Ah oui. Quel est son métier à Guy
Alors,
Patin?
Alors, poète.
Monsieur Patin n'était pas poète.
Médecin?
Non. Ah, c'était... Il faisait quelque chose pour le bourgeois gentilhomme, dans le bourgeois gentilhomme?
Dans le bourgeois gentilhomme, non.
Le médecin malgré
dans
lui.
Dans le malade imaginaire?
Dans le malade imaginaire, oui.
Il est médecin?
Médecin.
Il est
Diafoirus.
Médecin.
Diafoirus.
Diafoirus. Bonne réponse de François Berléand.
Enfin, hé hey.
Un peu.
On a travaillé en équipe,
ouais,
quand
voilà,
même.
J'imagine que vous avez joué Molière plein de fois déjà, monsieur Berléand.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez joué comme pièce de Molière?
Alors, j'ai joué l'Avare, j'ai joué Tartuffe, j'ai joué Monsieur de Pourceaugnac, j'ai joué. C'est tout.
Mais en tout cas, Thomas Diafoirus, eh bien, le médecin du malade imaginaire, qui a été inspiré à Molière par ce Guy Patin, qui était médecin, chirurgien, chirurgien à l'époque, hein, vous imaginez, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui, spécialiste des saignées vigoureuses et des purges modérées.
Ah
oui, à l'époque...
C'est Kim Jong-il.
À l'époque, on aimait purger.
Ah là là.
On faisait que ça. Hein.
Mais à propos des saignées,
oui.
On a combien de litres de sang? Je sais plus. 5
Beaucoup, beaucoup.
6
Alors moi, à la maison, j'en ai en réserve.
C'est vrai?
Ah oui?
Non, mais...
Au frigo, ouais.
Non, il y a des gens qui, effectivement,
c'est pas
réservent
vrai.
Leur sang. Oui.
Ah oui? Bon. Ah bah le mien est très bien, il est formidable, le mien, puisqu'il est haut, vous voyez.
Ah oui. Le mien aussi.
Ah, c'est vrai? Ah bah on pourrait se faire des échanges, Christine.
Alors, le mien aussi est au positif.
C'est moi, je suis au...
Vous êtes au positif?
Oui, je suis au positif, donneur universel, bien sûr.
Oui, ça, le sang, on peut prendre chez vous.
Oui, on peut tout prendre.
Il y a d'autres organes que je ne conseille pas.
Il y a l'éponge.
Si vous me le rendez, je peux vous le prêter.
Non, écoutez, monsieur Plaza, depuis...
Non, mais c'est troublant parce que.
Depuis 15h30, vous nous parlez de ce slip d'éléphant.
Parce que je...
Rassurez-moi, c'est une blague, vous n'aviez pas un slip d'éléphant.
Mais je vous jure que si, avec.
Il continue.
Avec les.
Bah, j'aime bien me déguiser.
Ils ont dû se marrer, les flics, en arrivant.
Non,
Ah, bah non, il était
non,
plus.
Non, il était plus là.
Ah, non, il était plus. Oh, non,
oui, mais il a montré les photos. Pour qu'on le retrouve. Il y a un portrait robot du slip d'éléphant. Oui. Monsieur Plaza va vous laisser faire le constat et on se retrouve dans un instant après la pub.
Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL.
C'est Brigitte Zrim. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom,
non.
Brigitte. Bonjour. C'est...
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, bonjour. Les auditeurs, bonjour, le public. Oh. Et meilleurs voeux à tous.
On racole, Brigitte.
Des magos. Oui, on essaye. On
alors,
fait ce qu'on peut.
Comment je dois prononcer Z-R-I-E-M ?
Ah ben Zrim, tout Zrim. Simplement. Voilà.
Tout simplement, Brigitte Zrim à Auxerre. Que voilà. Faites-vous dans la vie, Brigitte ?
Eh bien, je travaille dans un organisme HLM.
Oui.
Et je vais vous annoncer que dans 40 jours, je suis en retraite.
Oh, ben écoutez.
Ah, y'a là.
Vivement la retraite, alors.
On est content de
vous. Eh bien, vous pourrez patienter un petit mois avant de profiter de votre retraite et partir, qui sait, sur l'île de la Lagune, le temps d'un joli week-end. En plus, vous pourrez prendre des soins d'hydrothérapie. C'est un relais château 5 étoiles, un thalasso, spa, à Saint-Cyprien. Les Pyrénées-Orientales seront à vos pieds, chère Brigitte. Allez voir sur le site internet hôtelillagune.com. Et en plus, vous pourrez dîner au restaurant L'Allemandin, une étoile au guide Michelin. Le chef Frédéric Baquier vous attend déjà, Brigitte.
Ah bah c'est bien, impeccable.
Mais pour ça, il va falloir miser sur la bonne grosse tête.
Ah.
Vous avez les noms des 6 grosses têtes du jour.
Je suis un petit peu embarrassée parce que vous avez des bonnes grosses têtes aujourd'hui.
Ah, vous trouvez ?
Oh, merci Brigitte.
Ah, oui,
N'hésitez pas.
Christine Ockrent. N'hésitez pas.
Oui, je pense que
moi,
je vais
prendre Christine Ockrent. Moi, j'ai pas la chatte en ce moment. Hein.
J'aime beaucoup de monde qui les personnes qui sont là, je les aime assez. Alors,
ah bah, c'est très bien.
Ah, mais je suis très flattée. Merci, enfin, d'autant plus.
Mais oui, mais
Christine... Oui, voilà, mais je vais prendre par solidarité, je vais prendre une femme déjà, donc Christine Ockrent, ça devrait être
c'est
pas mal.
C'est gentil pour les deux autres.
Non, mais Valérie, elle sait bien, il n'y a pas de souci. Oui.
Les deux
je
autres,
l'aime bien aussi.
Elles sont drôles, les deux.
Non, mais Brigitte, vous avez raison de prendre notre reine Christine.
Mais oui, bien sûr.
C'est normal.
C'est quand même la reine de l'actualité. Elle devrait savoir répondre aux questions qui vont venir. On va quand même commencer par M. Plaza, puisque c'est lui qui est en bout de table. C'est là où on met les enfants, toujours, vous le savez bien. M. Plaza, pouvez-vous me dire qui était Lucienne Moreau ?
Ah ! Oui, oui, comédienne !
Comédienne ?
Comédienne.
Mais encore, comme on dit chez Molière, mais encore.
Bah, une comédienne qui vient de mourir, qui a fait pas mal de voix off, etc. Non,
non.
Elle travaillait peut-être pour le quotidien, etc.
Le petit journal, c'est
oui.
Vrai.
Ah.
Grolande, bon allez, je vais vous l'accorder.
Ouais
C'était une vieille dame, en fait, Lucienne Moreau. On l'a connue sur le tard.
78.
J'ai travaillé avec elle.
Elle vient de mourir à 88 ans. Vous avez travaillé avec elle ?
Sur Virgin Radio, j'ai fait Fort Boyard avec elle. Donc, autrement dit, j'ai fait Fort Boyard sans elle. Parce qu'en fait, elle ne pouvait rien faire, donc on faisait toutes ses épreuves.
Et on la voyait dans Grolande, dans le petit journal, et elle a fait de la radio, effectivement, avec vous et Christophe Beaugrand, entre autres.
Virgin Radio. Ouais.
Hommage à Lucienne Moreau. On vous garde.
Ouais.
Au moins, ça fera un duel final original.
On est en bino. En général.
Christine Ockrent, pouvez-vous me dire qui est Ilham Aliyev ?
C'est le président de l'Azerbaïdjan.
Waouh !
Voilà, ouais.
Ça, c'était pas facile.
Wow. Mais non, on a une sacrée équipe tous les deux.
Et pourquoi on en parle du président de l'Azerbaïdjan ?
Parce qu'il a protesté contre la visite de Valérie Pécresse en Arménie.
Exact. Et il a dit, même si on avait su, la prochaine fois, on ne l'aurait pas laissé repartir.
Attention. Voilà.
Et M. Macron l'a appelé en lui disant, faites-le la prochaine fois. On a déjà 2 qualifiés. Ça fera un beau duel final, Brigitte. Hein.
Ah oui, je crains le pire.
Alors, j'élimine maintenant tous les autres. Hein. Comme ça, on est tranquille. Monsieur Gazan, pouvez-vous me dire qui est Albert Bourla ?
Albert Bourla, c'est l'inventeur du slip éléphant. Eh oui, c'est lui. Bonne idée.
Non,
Monsieur Bourla.
Monsieur Bourla.
Vous le saviez, Christine ?
Ah oui.
Bah oui, c'est Bourla Reine.
Le patron de Pfizer, des laboratoires
c'est
Pfizer.
C'est le directeur général de Pfizer. Vous êtes éliminé, Florian Gazan.
Très bien.
Madame Dombal, pouvez-vous me dire, Ariel, qui est Patrick Mouratoglou ?
Eh bien,
là, je sais.
Justement... Justement.
Regardez-la désespérément.
Mais oui.
Cherchez un regard dans le public.
Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est tout de même dans le domaine du sport.
Oui, oui. Mais encore.
Oui.
Eh bien, justement.
Justement.
Sur parfois des gazons.
Oui.
Oui.
Et parfois terre ferme.
Oui. Oui.
Et donc, il est là, un super champion.
De quoi
De
football.
Et ben non.
Pas de chance, c'était du tennis, mais en plus, il ne joue plus.
Franchement, si tu...
il est coach aujourd'hui, entre autres...
De... Ah, il est coach
Serena Williams.
Entre autres de Stefanos Tsitsipas, dont il prend la défense aujourd'hui dans la presse.
Ah, de Tsitsipas.
Et de Serena Williams.
Et de Serena Williams. Patrick Mouratoglou, il a un centre de tennis professionnel très, très réputé. Vous êtes
on
éliminé.
On l'appelle Glouglou.
Oui, bien en sûr, Ariel.
Il ne fait pas qu'entraîner Serena Williams.
On va maintenant demander à Valérie Mérès. Ce qui est Robert Lewandowski.
Oh, ça, c'est facile.
Ouais. Robert Lewandowski, c'est un écrivain.
Oui, alors oui.
Avec ses pieds, alors.
Alors, c'est un... Le footballeur du Bayern, élu meilleur joueur FIFA de l'année.
Mais évidemment, à chaque fois, vous me dites des footballeurs. Moi,
bah oui, mais enfin, c'est le meilleur. C'est un des plus connus, oui. C'est le meilleur européen, en tout cas, vous voyez.
Qui méritait le ballon d'or l'année dernière.
Eh oui, joueur du Bayern. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. François Berléand.
Je savais répondre à toutes les questions. Avant.
Bien sûr, François.
Bien sûr, François.
Alors, vous allez forcément savoir me dire.
Non, celle-là, non. Pas, pas, déjà, je dis non.
Qui est Bertrand de la Chesnaye ?
Bertrand de la Chesnaye, alors c'est le président de je ne sais plus quoi.
Bertrand de la Chesnaye est un général, directeur de campagne d'Éric Zemmour, ex-numéro 2 de l'armée.
C'est pour ça qu'on ne sait pas.
On se prend des questions là-dessus.
Oui, François.
Ex-numéro 2 de l'armée de terre, le général de la Chesnaye dirige la campagne de Zemmour et vous élimine, monsieur Berléand.
La grande victoire d'être fier.
Eh bien, t'en suis fier. Voilà.
Il me reste donc, comme promis, un duel de titans.
La belle et le teubé.
On va commencer par le teubé, alors. Monsieur Plaza,
Je vous écoute, je suis tout ouïe.
Mais bien sûr, monsieur Plaza, pouvez-vous me dire qui était Ricardo Bofill ?
C'est très simple.
Oui.
Il est mort, il s'est suicidé, c'était l'un des fiancés de Dalida.
Non, Ricardo
Bofill,
c'est un grand architecte.
C'est un grand architecte, Ricardo Bofill.
Et vous le saviez qu'il était avec Dalida ou pas ?
Il a fait tout mon pelier.
Non, mais attendez.
Vous êtes éliminé. Oh, la grande gagnante est bien Christine Offrent, qui vous envoie Saint-Cyprien, Brigitte. Bravo. On se retrouve après les trois infos.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Ariel Dombal, François Berléand, Christine Offrent, Florian Gazan et le couple... Stéphane Plaza, Valérie Mérès. Ah. Une question pour Charles Renard, qui nous emmène dans un château célèbre, le château d'Esclignac. Mais pourquoi est-il célèbre ?
Oula, c'est en France ?
Ah oui, c'est en France, le château d'Esclignac.
Est-ce que c'est un château où il y a eu une grande bataille ?
Ah non, pas spécialement.
Il apparaît dans un roman ?
Il est dans le Gers, le château d'Esclignac.
Joséphine Becker ?
C'est un relais château ?
C'est pas un relais château, non.
Est-ce qu'il y a un très bon vin lié au château ?
Pas spécialement, non.
Il y a une guerre là-bas ?
Une guerre, non. Il s'est bâti ce château au XIe siècle.
Oui.
Il s'est passé quelque chose là-bas.
À la place d'une ancienne villa gallo-romaine, voyez-vous.
Il appartient à quelqu'un de connu, peut-être ?
Oui, monsieur. Plaza.
À Stéphane Bern.
Non,
ben justement, les Bogdanov avaient un petit château dans le Gers, mais il s'appelait Saint-Lary.
Eh ben non, c'est celui-là.
Ben non, en fait, c'était le château des Bogdanov.
Non, non.
Bonne réponse de Valérie Mérès.
Non.
Ah si.
Ah si.
Enfin,
il s'appelait pas comme ça.
Mais par Ariel.
Ah, je vous jure que c'est le château des Bogdanov, propriétaires Igor et Grishka Bogdanov.
Les deux, mais...
Oui, oui.
Et ils faisaient tout ensemble. Hein.
Ah, oui.
Bah, vous le connaissez, le château d'Esclignac ?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous avez déjà vendu un château, vous, monsieur Plaza ?
Non, j'ai jamais vendu de château.
Ça, jamais ?
Non, c'est toujours compliqué parce que... normalement, ils sont souvent à refaire, voyez-vous ?
Oui.
C'est comme les bateaux, les châteaux. On est content quand on l'achète, on est content quand on le revend. Ouais. Parce que ça coûte trop d'argent, c'est super vite.
En revanche, les châteaux, par rapport à un appartement, c'est souvent bien protégé. Si vous aviez mis des douves autour de votre appartement...
Oui.
Des machicoulis.
Et un pont-levis.
Un pont-levis,
Un pont-levis, oui, mais enfin, pour rentrer le soir...
Un pont-levis, vérissure.
Oui, oui.
Ça, j'aurais fini dans l'eau, oui, tu parles.
Qui dit château dit peinture, évidemment. Oui. Et je voudrais parler d'un célèbre...
Michel-Ange
un célèbre tableau conservé au musée du Louvre et considéré...
Joconde.
Non, et considéré comme un des chefs-d'œuvre de la peinture et plus particulièrement de ce peintre dont je vais vous demander de vous rappeler le nom. Il s'agit du tricheur à l'as de carreau. Qui en est le peintre?
Patrick Bruel?
Non.
David Copperfield?
David Copperfield. Un peintre qu'on vous dit.
Ce n'est pas Rembrandt, c'est pas Rembrandt.
Ah, ce n'est pas Rembrandt.
Bruegel?
Vermeer.
Non, Vermeer.
Il est français.
Un flamand, non?
Un flamand, non.
Est-il français?
Français.
Lebrun.
Oui, c'est un peintre français.
David.
Voilà.
David.
Ah, c'est français.
Le tricheur à l'as de carreau.
Ah oui.
Et pourquoi on l'a appelé le tricheur à l'as de carreau?
Parce que ça représente un tricheur à l'as de carreau.
Ah, c'est lui qui a fait ce tableau-là.
Oui, oui.
Moi,
oui.
Je vois très bien le tableau et le tricheur a les yeux qui regardent sur le côté.
Exactement, il y a trois dames.
Oui, il y a trois dames et il a une carte dans les mains, non?
Et en face des trois dames, le tricheur qui a dans la main un as de carreau.
Oui, voilà. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'as de carreau.
Eh oui.
Manet,
je vois très bien le tableau.
Oui, moi aussi, je le vois.
Mais je vous demande le peintre.
Manet,
Non.
Il est moins connu que Manet. Hein.
Pardon.
C'était pas du tout le même siècle que Monet.
C'est quel siècle, Monet? Oui, quand on veut reprendre ses petits camarades, monsieur Plaza.
Moi, j'aurais dit 16e.
Non. C'est fin 19e.
Né au 19e, mort au 20e.
Oui, wow.
Claude Monet.
Non, mais là, on est bien avant ça. Puisqu'on est
au Louvre. Le Louvre.
Là, on cherche un peintre.
C'est pas le Lorrain.
Non, on cherche un peintre du 17e. Un peintre lorrain, en revanche. Ça, c'est vrai, mais c'est pas le Lorrain.
Quiche.
Puisqu'il est né à Vic-sur-Seille. Et qui a dit quiche?
Voilà, devinez, à votre avis, qui a pu dire quiche? Qui a pu dire quiche?
Mais avouez que je vous fais rire.
Oui.
C'est bon pour l'homme.
Autrement, il n'y aurait vraiment aucune raison que vous soyez là.
On a besoin de rire.
Est-ce que ce ne serait pas Rouet?
Non.
Tissot.
Non, un peintre lorrain mort à Lunéville. Et on lui doit effectivement le tricheur à l'as de carreau, la diseuse de Bonaventure, la Madeleine à la veilleuse, l'adoration des bergers. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Donc, c'est pas Fragonard.
Un des tableaux français les plus célèbres, voyez-vous.
C'est un nom en deux mots.
Ah, c'est vrai qu'il y a une particule même.
Oui. Il a une rue dans Paris?
Oh, alors ça, écoutez, sûrement. Hein.
Ouais. Est-ce que c'est au coin de RTL, non?
Ouais. Non, monsieur.
Non, il n'y a pas de
monsieur
Rennes.
Berliand.
Rue Bayard.
Le tricheur à l'as de carreau. On doit ce célèbre tableau à...
De Stanislas?
Non.
De...
Slavinsky?
Non.
Est-ce que c'est un D apostrophe, la particule?
Non, c'est deux quelque chose, voilà. Voyez-vous.
C'est pas deux
Montigny. En un mot ou en deux?
C'est pas le pendu ici. Hein.
On connaît son prénom ou pas d'ailleurs?
Alors il y a son prénom, il y a son nom.
Et on connaît le prénom ou pas?
Est-ce que vous avez, vous, un tableau de ce monsieur?
Bon, écoutez, j'ai pas les moyens d'avoir un tableau exposé.
Les mecs qui m'ont cambriolé, ils sont gourés de maison, hein! Je peux me dire qu'ils auraient ramassé beaucoup plus chez vous.
Ils seraient bien déçus, voyez-vous, à part un slip en éléphant qu'un copain a oublié à la maison un soir. Bon, en tout cas, c'est 300 euros qu'on perd. Aïe.
Ça, c'est embêtant.
Et peut-être 100 euros de plus. Est-ce que quelqu'un... Quelqu'un peut lever la main dans le public?
Il y a une blonde à nouveau.
Non, personne n'a la réponse.
Personne n'a la réponse.
Ben voilà, c'est triste pour ce peintre quand même.
Ah oui,
ouais, comme quoi il n'a pas dû peindre grand-chose.
Ah bah quand même, dites le tricheur à l'as de carreau, la diseuse de Bonaventure. C'était Georges de la Tour. Georges de la Tour. 300 euros qui s'en vont à cause de Georges de la Tour.
RTL, 6 grosses têtes. 5 fake news.
Élodie Mirepoix habite à Bon Repos sur Ossonnel, en Haute-Garonne. Bonjour Élodie.
Bonjour l'équipe.
Bonjour Élodie.
Bonjour
Élodie. J'imagine que vous avez un métier qui vous permet d'écouter de temps en temps les grosses têtes tout de même.
Oui, j'ai un métier. Je viens de changer de travail aujourd'hui.
Ah, c'est pas vrai? Vous commencez quoi aujourd'hui?
Je commence au laboratoire départemental de l'eau.
Ah,
de la Haute-Garonne,
bien.
Voilà.
Vous êtes dans l'eau.
Jour.
Très bien. Et avant d'être dans l'eau, vous étiez dans quoi?
Dans l'alcool.
À l'hôpital.
À l'hôpital. Eh bien, très bien. Vous êtes passé de l'hôpital à la flotte, Élodie. Et vous allez pouvoir, j'espère en tout cas pour vous, partir aussi à la neige. Et là, attention, attention, c'est pas n'importe quel hôtel que je vous propose, c'est l'hôtel des Trois Vallées.
Oh là là.
Ah oui, c'est à Val Thorens, un véritable cocon de douceur. Il y a 28 chambres et suites. Certaines suites ont même un sauna, hammam ou jacuzzi, tant qu'à faire, demandez celle-là. Allez voir sur hôtel3vallées.com. Il y a même dans l'hôtel un espace wellness et puis un restaurant qui s'appelle tout simplement l'Olympiski. Vous voyez quand même, vous irez dîner à l'Olympiski avec la personne de votre choix, puisque c'est un week-end pour deux que je vous propose dans cet hôtel des Trois Vallées. Vous êtes prête, Élodie ?
Prête.
Attention, il s'agit de bien écouter mes grosses têtes. Six infos, une seule de vraie, vous le savez. Commençons tout de suite par Florian Gazan.
Oui, alors Jean-Michel Blanquer vient de nommer Cathy Guetta à la tête d'une commission pour savoir jusqu'à combien de doses on peut mettre dans le pif d'un étudiant.
Christine O'Krent.
La marque Lacoste, sponsor de Novak Djokovic, a décidé de remplacer son crocodile par un pangolin. Surtout l'équipement vestimentaire du joueur.
Stéphane Plaza.
Michel Polnareff, de retour avec une expérience immersive. Comme il avait déjà montré ses fesses en 1972, il renonce en revanche à la partie olfactive.
Ariel Dombal.
David Bennett, le premier homme à avoir reçu la transplantation d'un cœur de porc la semaine dernière, a poignardé un homme par jalousie à 7 reprises.
François Berléand.
On vient de découvrir qui a dénoncé Anne Frank. Vu la rapidité de l'enquête, Derrick et Rex ne seront pas récompensés.
Valérie Mérès.
Après avoir appris que c'était un notaire juif qui aurait dénoncé Anne Frank, Éric Zemmour a déclaré « On en fait beaucoup pour une mineure isolée dans un grenier.
» Qui a dit la vérité ?
Élodie, Élodie.
Ariel, qu'est-ce que vous avez dit ?
Alors, David Bennett, le premier homme à avoir reçu la transplantation d'un cœur de porc la semaine dernière, a poignardé un homme par jalousie à 7 reprises.
Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Allez, je choisis Ariel.
Eh bien, Élodie,
oui, c'est ça.
Merci, Ariel.
Enfin, il faut préciser que le Bennett avait poignardé sa victime avant.
Oui, bien sûr.
Le cœur,
c'était tout le piège de l'information.
Voilà.
Oui. Il n'a pas poignardé un homme par jalousie à 7 reprises depuis qu'il a un cœur de porc.
Non. Non.
Mais il l'avait fait avant. On s'en est aperçu après.
Hashtag balance ton cœur de porc.
Effectivement, le premier patient greffé d'un cœur de porc avait poignardé un homme à 7 reprises par jalousie. Bon, c'était il y a longtemps.
Un charcutier ?
C'était en 88. Mais forcément, le passé de cet homme a ressurgi. Comment ça se passe ? Voilà. Il a eu un problème de cœur, on lui a greffé un cœur de porc. Et là, les journalistes ont cherché dans le passé de cet homme. Et ils ont effectivement retrouvé que David Bennett avait poignardé un homme à 7 reprises. Dans les années 80.
C'est beaucoup, 7.
Ah, c'est beaucoup, 7.
À partir de 1, ça pique.
C'est terrible.
Il aurait mieux fait de ne pas se faire remarquer.
Ah oui.
Ben oui.
Ouais, enfin bon, il a un cœur de porc maintenant.
Ah oui.
Oui.
Voilà.
Comme quoi, tout n'est pas bon dans le cochon. Hein.
Alors, c'est quand vous écoutez le cœur de Monsieur Bennett, ça fait drôle, ça fait...
Oui.
C'est vrai que quand même, la sœur de ce Monsieur Bennett, sur la BBC, je ne sais pas si vous avez vu ça, Christine O'Krent, mais la sœur de Monsieur Bennett a témoigné en disant qu'il ne méritait pas qu'on lui sauve la vie. « Mon frère a souffert pendant 19 ans ainsi que toute ma famille. Je pense que les médecins qui l'ont opéré devraient recevoir toutes les éloges pour ce qu'ils ont fait, mais pas Monsieur Bennett. » Voilà, elle a affirmé sa colère de le voir traité comme un héros alors qu'il a été un salaud, dit-elle.
Eh oui, Laurent, il y a des gens mauvais et il y a des gens bons.
C'est bien, Monsieur Gazan. Enfin... C'est pas gentil de la part que ça sort non plus.
Non, c'est pas très gentil, mais
c'est la sœur de
qui ? C'est la sœur de qui ? De celui qui est mort ou de Monsieur Bennett ?
Du criminel.
C'est la sœur de.
Du criminel.
Ah,
c'est la sœur du poignardé.
Ah, c'est la sœur du poignardé.
Bah, oui. C'est plus normal. Oui.
Ah oui, je croyais que c'était la sœur de Monsieur Bennett. Oh. Bon, de toute façon, Monsieur Bennett fera plus de mal à autrui aujourd'hui. Vu qu'il a un cœur de cochon. Vous avez gagné, Élodie, bravo.
Bravo.
Une question pour Evelyne Kless, qui habite Cornan, dans Lyon. Assez facile, cette question. Je vous emmène sur l'île de la Réunion, à Saint-Pierre, précisément. Là-bas, à la Réunion, on parle beaucoup en ce moment du fils de René Thomas, guide de haute montagne. Mais de qui s'agit-il ?
Eh bien, peut-être du père de Welbeck, qui était guide de montagne.
Et Michel Welbeck est bien né à la Réunion. Excellente réponse ! Dariel Dombal. Eh oui, il est né à Saint-Pierre de la Réunion, le fils de René Thomas, effectivement. Et son papa était guide de haute montagne. Et sa maman, elle, était docteur en médecine, anesthésiste diplômée. D'ailleurs, sa mère aurait falsifié son acte de naissance pour le vieillir de 2 ans, car elle le pensait surdoué. Et on ne sait pas trop exactement, finalement, quel est l'âge de Michel Welbeck.
C'est vrai, mais évidemment, sa mère, qui a écrit d'ailleurs un livre, avait des relations très conflictuelles.
Terrible.
Avec son fils.
C'est un peu comme la sœur de M. Bennett. Et... Non. Oh. Une question pour Marie-Lise Lefebvre, qui habite Rambouillet. Il s'agit maintenant de retrouver le nom d'un célèbre médecin qui épousa Jeanne Mazelin, puis Jacqueline Rousselet. De qui s'agit-il ?
Est-ce que ce médecin est toujours vivant ?
Non ! Jeanne Mazelin, il l'épousa en 1541.
Oh.
Ah oui !
Ah oui, alors déjà, là, on est... Ouais,
il était, donc il n'est pas sur Doctolib.
en quelle année ils sont mariés ?
Quand il a été veuf en 1573, vous voyez, hop ! À peine 3 mois après le fait d'être veuf, alors qu'il avait 63 ans, il a épousé Jacqueline Rousselet, 19 ans.
Ambroise Paré.
Ambroise Paré, excellente réponse de M. Berléand. Vous êtes épaté par François Berléand, hein, Stéphane Plaza.
Oui, parce que j'avais la réponse.
Ah bon ?
Il répond toujours 2 secondes avant moi.
Vous connaissez Ambroise Paré ?
Oui, bah, j'étais à l'hôpital quelquefois.
Une question pour Franck Barroquero, qui habite la Bastidonne dans le Vaucluse. Et là, j'imagine que très vite, vous allez retrouver le nom de l'œuvre dans laquelle on entend ce célèbre passage. « Quitte ton nom. Un nom, qu'est-ce qu'un nom ? Ce que l'on appelle une rose embaumerait aussi sous un autre nom. »
C'est Juliette dans Roméo et Juliette.
Excellente réponse de Valérie Mérez.
Bravo.
Bravo, bravo. Il faut dire que vous avez joué dans Roméo et Juliette.
Oui, Valérie. Mais j'ai fait la nourrice.
Oui, d'accord. Enfin...
Ah, je pensais, j'allais dire Roméo.
Mais c'est bien la nourrice avec les gros seins.
Là, il y a comme une pointe d'envie.
Là, c'est la scène du balcon en plus. Hein. Balcon. Elle est sur son balcon, Juliette. Et de son balcon, elle dit à Roméo, quitte ton nom. Hein. C'est évidemment la bagarre entre les Capulet
et les Montaigu.
Et voilà, et les Montaigu. J'avais oublié l'autre famille, dites donc. Et effectivement, elle lui dit, quitte ton nom. Un nom, qu'est-ce qu'un nom ? Ce que l'on appelle une rose embaumerait aussi sous un autre nom. C'est joli quand même.
Oui, oui. Et puis alors, le lendemain.
Oui. Elle tombe du balcon, non, mais... non.
Elle tombe du
balcon. Roméo.
Et elle écrase la chatte blanche.
Non.
Valérie avait du monde au balcon, en tout cas.
Roméo dit « But soft white light through yonder the window breaks. »
Ah, elle l'a vu en version originale.
Roméo and Juliet.
It is the east and Juliet is the sun.
Yes, mais voilà. En attendant, elle a répondu bien à la question.
Et c'est là qu'on va voir si Monsieur Plaza a une bonne mémoire. Parce que tout à l'heure, je vous ai rappelé que Roméo et Juliette, c'était...
Oui.
C'était de...
C'est... Ah, oui, oui, oui.
De
Molière, hein, bien sûr.
De
Shakespeare.
Anderson.
De Dostoïevski.
Tu sais pas ça. Mais de Roméo et Juliette, c'est de Dire Straits. Hein,
Shakespeare. Shakespeare. Moi, j'ai retenu Dia Fuerus.
En fait, le...
Dia Fuerus.
Et ça, en fait,
c'est pas
Dia
Fuerus. C'est Dia. Bah, j'appelle toi. Bon, hey. C'est Dia.
Trois fois rien.
Dois Fuerus.
Je sais pas quand ça démarre la pièce, mais j'ai peur pour mon texte. J'ai peur pour mon texte.
Alors, vous allez pas le reconnaître.
Je vais vous dire. Hey.
Il va faire
et
du
moi home... donc.
Je vais vous dire que j'ai reçu ce matin des éloges de mon metteur en scène.
C'est pas vrai.
Ouais.
Allez, allez.
Je me permets de vous le lire. Parce que, non mais c'est important.
Si déjà vous arrivez à lire, c'est un progrès.
Attendez.
Ah mais je sais, c'est lui qui a piqué le slip éléphant.
Ah, il va vous faire du home staging avec votre texte.
Aïe, 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 aïe.
Il t'envoie des petits mots en me disant que t'es formidable.
Il me dit merci d'être là pour ton talent, ton efficacité et surtout ce déplacement incroyable.
C'était avant le cambriolage ou après?
C'est là, ce matin. Votre texte est entre bonnes mains. Ce qui est plus dangereux, c'est quand je vais découper Valérie avec 12 sabres. Parce que, inutile de vous dire quand même que j'ai... si je me trompe, eh ben, elle va perdre un petit peu de poids. Hein.
Vous voyez, monsieur Berléand, finalement, vous êtes chanceux. Vous disiez, ah là, j'ai joué avec Nils Restroup. Maintenant, vous avez Antoine Duléry comme partenaire par le bout du nez. Oui. Vous auriez pu être avec Plaza.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, j'ai échappé.
Pour l'instant, je saurais te retrouver.
Si je m'en sors, on pourra peut-être jouer ensemble.
Alors moi, je serai plus là. Si tu t'en sors, moi, ça y est, je
Mais si, mon chéri, mais on va jouer 2 ans ensemble. Peut-être qu'après, on aura envie de partir ailleurs.
C'est vrai que peut-être les États-Unis m'appelleront.
Parce qu'ils ont retrouvé ton slip éléphant, ouais.
Oh, je me mets à l'anglais dès ce soir.
Oh, et apprenez le français déjà et allons-y par étapes, Plaza. La valise. La valise RTL, 1082 € dans la valise et 4 choses. Valérie, à votre avis, à qui on va confier la valise?
Non, bah évidemment, à Ariel.
Oui.
Oh là là, je
non,
sens
mais
du
on
dépit.
Peut peut-être la confier à la reine Christine.
Oui.
Ça lui ferait plaisir.
Non, je peux te donner un numéro.
Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Parce qu'il y a peut-être un truc que j'ai besoin.
Dont j'ai besoin.
Dont j'ai besoin.
Oh, elle va être bien.
Dont j'ai besoin.
Oh, elle va être bien, la pièce.
Alors, attention, 1082 € et 4 choses dans la valise RTL. Valérie Mérès va donner, ou Christine, un numéro, vous avez raison. Christine.
Le 5.
Le 5. Ariel serait déçu si je ne lui confiais pas la valise.
Et oui, c'est vrai.
Monsieur Lionel Pradel, qui habite Montauban, va peut-être reconnaître la voix d'Ariel Dombal. Ça a sonné à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, du côté de chez... Du côté
Lionel.
Du côté de chez Lionel Pradel.
Pradel.
On vient d'entendre une première sonnerie.
Une deuxième.
Eh oui.
Eh oui. Souvent. Et après, il y aura une troisième.
Mauvais signe. C'est mauvais signe.
Ah, oui. Là, ça risque d'être mauvais
allô
signe. Allô,
ah,
allô, ouais. Allô, est-ce que je suis bien chez
oh
monsieur
là, allez,
allez. Eh, alors, est-ce que je suis bien chez monsieur Lionel Pradel?
Il a raccroché.
Je pense qu'il a dit, oh là 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 là, je raccroche.
Il a cru
que c'était une femme.
Il a cru que c'était Ariel Dombal.
Ouais. Non, on le rappelle, je crois.
Oui, pour
il va te raccrocher une deuxième fois au nez.
Mais non, c'est parce que ça s'est cassé, la ligne. Allô? Allô?
Oui.
Allô, allô? Est-ce que je suis chez monsieur Lionel Pradel?
Oui.
C'est bien vous. Vous êtes bien à Montauban?
Oui.
À Montauban même?
Ben oui.
Eh bien, monsieur Lionel Pradel, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle?
Le compte formation.
Eh bien, écoutez, je suppose que c'est pour la valise RTL.
Mais oui,
oui.
Bravo.
Et vous nous avez raccroché au nez, Lionel.
Oui, là, quand même.
L'émotion, ah, l'émotion.
Parce que je vais vous dire pourquoi, parce que mon téléphone vous a mis suspicion de spam.
Ah, suspicion de spam.
Ah oui, monsieur Pradel,
femme, ouais.
On était perdu de vue d'un seul coup. Monsieur Pradel, j'entends la télé derrière vous, je me trompe?
Non, je l'ai coupé.
Ainsi, Ariel Dombal va pouvoir vous poser la question fatidique.
Exactement, vous êtes tout près de gagner. Donc, il faut savoir et le montant de la valise et son contenu.
Bah écoutez, j'ai pas écouté hier, donc résultat, je me suis fait avoir, j'ai écouté, mais pas toute l'émission, et j'ai pas écouté la partie où il y avait la valise, on a dû rajouter des choses.
Mais hier, je n'ai rien ajouté hier dans la valise RTL.
Tentez le coup, hein, tentez.
Oui, mais on était lundi, après c'est le week-end, donc ça repart un vendredi, donc c'est un peu loin.
Oh, bah,
ah, mais quand même
votre affaire, là.
Vous faites pas beaucoup d'efforts, Lionel. Hein.
Parce que la dernière fois que j'ai ajouté quelque chose, c'était mercredi 12 janvier, donc vous voyez, ça remonte, comme on dit.
Bah, il faudrait dire des choses au hasard, mais bon...
Ah ça, si c'est au hasard, il y a peu de chance. Voyez, tout le monde n'est pas Plaza. Essayez quand même. Alors dans la valise, il y aurait D'Artagnan, Paul Prébois, Bobby Lapointe.
Mais je sais pas.
De l'audace, toujours de l'audace.
Danton.
Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait... Je me souviens, à un moment donné, il y avait un robot cuiseur Maginix.
Ah non, ça, c'est encore
c'était il y a deux ans, ça.
La précédente, alors.
La précédente.
Non, mais c'est bien d'essayer. Mais est-ce que vous avez le montant, déjà?
Non, mais même pas, alors. Non. Il y avait 1082 euros dans la valise RTL, le livre David Bowie, l'enchanteur, l'album d'Alain Chamfort, un livre de Franck Tillyès, 1991, et un week-end offert par Demeure de Campagne, .com. Voilà le contenu de la valise.
Que j'allais le dire. Pourquoi vous l'avez dit?
Que faites-vous dans la vie, Lionel?
Restaurateur.
Donnez au moins le nom de votre restaurant, ça vous fera de la pub.
Le Refuge à Montauban.
Le Refuge à Montauban. Il y a quoi au menu aujourd'hui au Refuge?
Des fondus, des raclettes, des tartiflettes.
C'est vrai que c'est la région.
C'est vrai que c'est... Oui, c'est la région.
C'est pas la région, mais c'est la saison.
C'est la saison. Et en tout cas, vous aurez bientôt au poignet une jolie montre RTL qu'on va vous envoyer, Lionel.
RTL,
ça fait plaisir, ça me fait plaisir.
Bah, j'espère. Continuez à écouter les grosses têtes. On salue tous les clients du Refuge à Montauban. C'est combien le menu?
Oula, alors il y a plein de prix, hein, ça va entre 10 et 25 euros dans ce que vous prenez.
Allez, 10 à 25 euros le menu et la spécialité, c'est la raclette.
Mais il paraît que c'est une des spécialités favorites des Français. La fondue, la raclette et le couscous.
Vous n'avez pas en manger beaucoup, Ariel.
Eh bien si, justement.
Et je vais ajouter, merci pour cette précision, Lionel.
Il est drôle.
Je vais ajouter dans la valise, écoutez bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas ajouté un cadeau depuis longtemps.
Ah ben oui.
Alors attention pour ceux que nous appellerons demain.
50 euros?
Non. Non. Un lot de chaussettes pour un an.
Ah, Stéphane. Ah. C'est pour Stéphane.
C'est pour Stéphane.
Et un slip. Et un slip.
Ça peut, remplacer, ça peut remplacer l'éléphant. Hein.
C'est les chaussettes Kindy.
Je peux peut-être en avoir.
Les chaussettes Kindy qui vous offrent une paire de chaussettes par semaine.
C'est génial.
Soit 52 paires de chaussettes.
Par semaine?
Oui. Kindy, les chaussettes ne se cachent plus.
Ben oui.
Kindy, la chaussette française. Depuis 150 ans, confortable, coloré, tendance.
Mais quelle taille?
Les chaussettes
43.
Kindy accompagnent toute la famille au quotidien, pour la ville, pour le sport. Les chaussettes ne se cachent plus grâce à Kindy. Et depuis 1966, Kindy met de la couleur à vos pieds.
Oh, ouais. C'est beau.
Ouais, bravo.
Bravo, Kindy.
Molière. C'est du Molière.
Moi, c'est vraiment mes chaussettes préférées.
Mais bien sûr. D'ailleurs, d'où le fameux proverbe « Kindy mot consent ». Les chaussettes Kindy sont dans la valise RTL.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Vous m'avez entendu dire à mes camarades grosses têtes pendant la pub, tout le monde connaît l'invité mystère. C'est flatteur pour vous, n'est-ce pas, invité mystère?
Oui.
Ça vous fait plaisir.
C'est quoi cette voix?
Cette petite voix est la voix d'un homme?
Oui.
Ça s'entend tout de suite.
Un homme. Est-ce que vous revenez d'Ibiza?
Non.
Est-ce que vous bégayez?
Oui.
Oh.
Est-ce que vous droguez aussi?
Stéphane Plaza, alors là je voudrais savoir pourquoi et comment, propose Georges Clooney. Mais pourquoi Georges Clooney?
Parce que tout le monde le connaît.
Oui.
Il parle super bien français.
Vous allez me faire la liste de...
Vous nous dites tout. Comme une évidence, tout le monde le connaît. Ça nous fait rêver, Georges.
C'est gagné.
est-ce que vous faites rire?
Non.
Vous faites rire parfois, mais pas toujours. Ça dépend de ce que vous faites. Voilà. Mais vous aimez bien ça, faire rire.
Mais oui, bien sûr.
Est-ce qu'on vous connaît depuis plus de 10 ans?
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui.
Grands.
Ils sont gentils, les enfants?
Combien d'enfants?
Deux enfants.
Est-ce que vous portez un pseudonyme?
Non.
Voici un premier indice musical. C'était un verbe contractuel. Il croyait que sa vie était belle. Il oubliait que dans le ciel, les papillons bleus, on est elle. Ah, vous avez reconnu la voix de Gérard Rinaldi, évidemment, qui faisait partie des Charlots, le leader, chanteur des Charlots. C'est la chanson qui compte, hein, plus que les Charlots, et vous avez peut-être reconnu la chanson. En tout cas, c'était le prénom et le nom du refrain qui comptait. Ariel Dombal pense que vous êtes Jean-Jacques Goldman. Êtes-vous Jean-Jacques Goldman?
Non.
Stéphane Plaza propose Hervé Villard.
Il faut qu'il arrête de boire.
Christine Ockrent espère Patrice Lecomte. Êtes-vous Patrice Lecomte?
J'aimerais bien.
François Berléand propose Dupontel. Êtes-vous Dupontel?
Je suis très flatté.
Donc vous êtes comédien, hein, on peut le dire.
Entre autres.
Entre autres. Chanteur aussi?
Non.
Réalisateur?
Oui.
Comédien, acteur, réalisateur aussi. Voici un deuxième indice
musical.
Ça devrait
me parler, ça.
C'est une musique de Vladimir Cosma, la musique d'un film, évidemment, dans lequel vous avez joué. Est-ce que vous avez joué déjà avec François Berléand, invité mystère ?
Non.
Jamais.
Oh, yeah.
Et avec Valérie Mérès ?
Non plus.
Stéphane Plaza propose Gérard Lanvin. Ça, Valérie Mérès, elle a déjà joué avec Gérard Lanvin, donc on peut oublier.
Non, je l'avais noté avant.
Florian Gazan pense à Pierre Richard. Êtes-vous Pierre Richard ?
Non, mais je suis très flatté.
Eh oui, François Berléand pense à Elie Semoun. Êtes-vous Elie Semoun ?
Non.
Et ça vous flatte, ça ?
Ariel Dombal propose Richard Berry. Vous n'êtes pas non plus Richard Berry.
Non.
Il faut poser une question.
Est-ce que vous êtes déjà venu aux Grosses Têtes ?
Oui, madame.
François-Xavier de Maison est proposé par Valérie Mérès. Vous n'êtes pas François-Xavier de Maison. Voici encore un indice musical.
Jean-Baptiste Poquelin, c'est un nom qui chante bien. Je suis fière qu'il soit le mien. Mais pardonnez-moi, mon père, pour la joie de mon grand-père. Je m'appellerai Molière.
Voilà un bel indice, n'est-ce pas, invité mystère? Christine Ockrent propose Gérard Jugnot, ce n'est pas le cas. Valérie Mérès propose Molière, il n'est pas là aujourd'hui. François Berléand, Lucien Jean-Baptiste,
bah oui.
C'est pas bête, Lucien Jean-Baptiste.
C'est à lui que je pensais.
Mais vous n'êtes pas Lucien Jean-Baptiste.
Je l'ai.
Florian Gazan pense à Philippe Torreton, vous n'êtes pas non plus.
Non, je l'ai.
Torreton.
Je l'ai.
Valérie Mérès et Stéphane Plaza disent je l'ai.
Et on l'a, quand on l'a, hein, Manon.
Alors, Valérie Mérès, effectivement, vous a identifié, bravo Valérie.
Yes.
Tandis que Stéphane Plaza propose Francis Huster. Êtes-vous Francis Huster ?
Non plus.
Non, je l'ai pas, moi.
Voici encore un indice. C'est un bel indice, ça, le nombril du monde, n'est-ce pas, invité mystère ?
Ah, absolument.
Si Berléand ne trouve pas avec ça...
Eh ben moi, je crois que j'ai trouvé.
Berléand, il m'a beaucoup déçu.
Pardon.
Voilà, invité mystère, vous avez grossi à un moment donné.
Voilà, ça y est.
Ça, c'est un joli compliment, n'est-ce pas ? Ariel Dombal vous a identifié, bravo Ariel.
Mais on cherche plutôt un homme fort, alors où ?
Et François Berléand aussi vous a identifié. Bravo François Berléand, il a rayé. Ah oui, il avait mis Podalydès avant vous, hein, je vous le dis quand même. Mais vous n'êtes pas Podalydès. Mais ça y est, il vous a trouvé. Plaza propose, pourquoi Jean Dujardin ?
Parce qu'il a deux enfants.
Ah oui. Ah oui, on en est encore là alors.
Et puis que,
très bien.
Mais que c'est un comédien quand même.
Ah oui, alors voici d'autres indices pour Monsieur Plaza, Madame Ockrent et Monsieur Gazan.
Tous les trois, oui.
Des larmes sur Ramatuelle. Voilà une jolie chanson.
Je l'ai. Oui.
Je m'attends au pire. Il va nous dire Gérard Philippe. Vous allez voir.
Oui, je l'ai.
Florian Gazan vous a identifié.
Moi pas.
Seule Christine Ockrent ne vous a pas identifié.
Je l'ai.
Je serais ravie de le voir.
Ah ben, je peux vous le faire écouter, chanter si vous voulez. Écoutez-le.
Et oui. Au clair de la lune, mon ami héros, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
Ils sont trois à chanter.
Ma chandelle est morte.
Avec André Dusselier et Roland Giraud.
Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu.
Bon, alors, c'est ça marche toujours pas.
Ça marche pas.
Alors, une autre chanson pour Christine.
Sois chic, explique-moi. Là, ça coule, et là, ça coule pas. C'est bien pensé, c'est bien dosé. Y a rien qui coule, c'est bien doré. Est-ce que tu me la prêteras? Si t'es sage, on verra.
Toujours
alors,
en rien.
De plus en plus perdu.
Alors, je me tourne vers les autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est...
Michel
Bouchetat, évidemment, qui joue l'avare au Théâtre des Variétés. Michel Bouchetat était bien notre invité mystère. Eh oui, c'est lui Harpagon dans L'Avare, mis en scène par Daniel Benoît, actuellement au Théâtre des Variétés. Le plaisir de retrouver les planches. Et puis c'est l'année Molière, alors ça tombe bien de rejouer L'Avare.
Oui, ben enfin, on n'avait joué que 7 fois à Paris. Et c'était ma 4e première. j'en peux plus de commencer.
Ah, c'est vrai qu'il y a des pièces qu'on répète pendant des années depuis ce confinement. Là, au moins, vous êtes au point avec L'Avare, Michel.
J'espère. Mais c'est une aventure tellement forte qu'il n'était pas question d'abandonner.
Mais je vous reconnais à peine là sur l'affiche. C'est vraiment vous là sur la photo ?
Promis.
C'est fou hein, quand même. Hein. C'est une perruque donc que vous enfilez chaque soir ?
Absolument.
L'Avare, joué par Michel Bougenat, mis en scène par Daniel Benoît, avec toute une troupe hein, à vos côtés. Je ne sais pas si on peut citer tout le monde. Fanny Valette, qu'on connaît, Bruno Andrieux, Antonin Chalon, Paul Charriera, Sophie Gourdin, Fabien Houssaï, Mathieu Métral, Julien Nakache, Mélissa Pratt. Voilà, je l'ai fait pour
Bravo,
vous.
Merci.
Ces fesses durent bien, c'est une troupe. Molière, c'est une troupe.
Oui. Et c'est une des choses magnifiques pour moi quand il m'arrive de faire ça, c'est de jouer avec les autres.
Alors évidemment, on sait qu'Harpagon veut marier ses deux enfants, plutôt avec des plus âgés qu'eux. Et lui, en revanche, il veut évidemment, il convoitise une jeune femme, Marianne.
Oui, qui est bien dans le besoin. Sa mère est malade, elle a besoin de s'en sortir. On lui propose ce vieux qui est malade, qui va mourir dans 3 mois. Donc on lui dit que c'est une affaire, sauf que elle tombe amoureuse du fils de cet homme.
Le et fils de l'avare.
Ouais, parce que le vrai sujet, il y a des gens ici qui connaissent mieux Molière que moi, mais le vrai sujet, en tout cas pour moi, c'est le désespoir. C'est pas l'avarice. L'avarice, c'est la partie apparente de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous, c'est un homme seul, désespéré. Il est violent, méchant, et en même temps, il est par moments touchant par sa naïveté. C'est un rôle incroyable. C'est une histoire incroyable. C'est un rôle incroyable, en tout cas. Je peux vous dire, ça fait quand même longtemps que je fais ce métier. C'est bouleversant de jouer ça. Bouleversant.
Michel Bougenat qui joue du Molière et pas n'importe lequel. L'Avare. Tout à l'heure, Monsieur Berléand nous a cité toutes les pièces de Molière qu'il avait jouées. Je ne sais plus s'il y avait L'Avare dedans.
Oui, il y avait L'Avare.
Et c'était L'Avare que vous jouiez où ?
Non, je jouais Valère, moi.
Ah, vous jouiez Valère.
À l'époque, j'étais jeune.
À l'époque, voilà.
Parce que ça... J'ai été jeune, et oui, je ne suis pas...
Ça peut paraître étonnant, hein.
Je ne suis pas né vieux.
Mais il est beau, il est très beau.
Non, mais je tiens à dire, parce que justement, samedi, c'était la première représentation, j'y étais, et on a partagé un peu le même problème, c'est-à-dire que j'en suis aussi à ma 4e première ce soir.
Avec le donc,
voilà. Mais là, j'étais là, et le spectacle est absolument extraordinaire. Voilà. Et je dois dire que Michel est magnifique.
Et ça permet de dire à tous nos auditeurs qu'il faut aller dans les théâtres.
Je suis touché, mais il n'est pas objectif, il est amoureux de moi.
Quel que soit votre choix, que vous alliez dans un théâtre ou dans un autre, retournez voir les comédiens sur scène.
C'est quel théâtre ?
C'est les variétés.
Je l'ai dit 10 fois déjà, Ariel. Si vous suiviez Ariel Dombal.
Mais je suis. Et je suis surtout, et j'ai deviné, parce que c'est quand même moi... qui ait dit que le nombril du monde, est-ce qu'il avait dû grossir ? C'est quand même extraordinaire. Un acteur qui se fait grossir pour jouer un rôle.
cette histoire de... Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Il y a des trucages magnifiques pour y arriver.
Voilà.
Et les 25 kilos que j'ai pris, franchement, je les ai payés très cher après. Hein. pour les prendre encore, on s'est bien débrouillé. Ouais, avec ma nourriture, disons, naturelle et atavique, il n'y a aucun problème pour
avec
moi.
Avec l'huile Puget.
Oui, bien sûr. Mais vous connaissez l'histoire du type... Vous connaissez l'histoire du type de chez moi qui rentre chez lui le soir et qui dit à sa femme « ça sent bon, qu'est-ce que tu fais à manger ?» Elle est en train de verser un litre d'huile d'olive dans une casserole. Elle dit « elle fait « je sais pas encore
». Christine Ocrente, alors.
Eh oui. Mais je vais aller voir la Var.
Eh ben, allez voir la Var avec Michel Bougenat aux variétés. Plaza, quand même, vous avez fini par trouver, Stéphane.
Oui.
Vous avez vendu un appartement à Michel Bougenat.
On s'est retrouvés sur un appartement, sur une émission, alors que c'était pas prévu. Et quand je lui ai dit de ne pas l'acheter, il a dit « alors si tu me dis de ne pas l'acheter, je vais l'acheter
». Vous voyez, les choses n'ont pas changé ici, monsieur Bougenat.
Oui, je vois, mais vous m'avez manqué. Hein.
Vous vous faites trop rare, revenez nous voir de temps en temps, parce que c'est vrai que Michel a fait grosse tête aussi ici.
Mais il y a un peu à voir de ses apparitions.
Quelquefois, mais voilà, c'est l'avare. L'avare, en tout cas, qu'on vous conseille forcément, version Michel Bougenat. Chaque avare est différent, vous le jouez comment? Quelle est votre version à vous?
Une phrase dans une des premières lectures qu'on a faites où la flèche dit de tous les humains, c'est le moins humain. Alors j'ai levé la main, interrompu la lecture et dit « mais alors ça veut dire qu'il a encore de l'humanité, cet homme, il n'est pas tout à fait inhumain, oui. Il a encore quelque chose. »
Il est récupérable ?
Non. mais il a encore au début de cette fameuse journée, il a encore quelque chose d'humain et ça m'a touché.
Mis en scène par Daniel Benoît au Théâtre des Variétés. Courez applaudir Michel Bougenat dans l'Avare. Merci Michel d'être venu nous voir. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.